L'histoire de feu Monsieur Follet. Nouvelle de Franck Fliman. Sous cloche. François Follet entendait se donner des cadres dans la vie. Des cadres pour tout et en toute occasion. Un emploi du temps détaillé, depuis le lever jusqu'au coucher, des objectifs, tant personnels que professionnels pour chaque heure de la journée, il aspirait en somme à mener une vie rangée, minutieusement réglée, travailleuse et honnête, qui ne laissait pas de place, ou le moins possible, à l'aléa. Le programme chargé de chaque semaine trouvait son couronnement, en bon catholique qu'il était, dans la messe dominicale le matin et la visite protocolaire aux parents l'après-midi, alternativement dans les deux familles pour un retour le soir avant 20 h, exceptionnellement après le dîner car il fallait songer au lendemain et préparer la semaine à venir. Enfin, pour être tout à fait en règle vis-à-vis de sa conscience, Monsieur Follet se confessait au moins une fois par an, ce qu'il appelait par dérision son nettoyage de printemps. Il se faisait une idée précise de Dieu, selon sa propre vision du monde. Une grosse tête carrée, portant sur le front une épaisse chevelure diaprée, les joues et le menton dévorés par une barbe foisonnante, à l'image d'une statue grecque, il se désolait seulement que la terre ne fût pas plate, ce qui eût mieux correspondu à sa conception du monde. Un univers carré, flanqué de bords et de quatre angles, dont on distinguait le bas du haut, la gauche de la droite. Peut-être cette façon d'être et de vivre dérivait-elle d'une déformation professionnelle. Il exerçait le métier d'encadreur. Le cadre, toujours le cadre, partout et tout le temps. Levé invariablement à 6 h, à l'atelier à 7, ouverture de la boutique à 9, cela avec la régularité d'une horloge, que facilitait la disposition des lieux puisque l'atelier et la boutique étaient contigus aux pièces de vie, cela tous les jours de l'année. Sa femme et lui ne s'accordaient de vacances qu'à Noël et 3 semaines en été. Monsieur Follet était le rejeton d'une longue lignée d'artisans d'art. La mémoire des débuts se perdait et se confondait probablement avec les premiers temps de cet artisanat. Charpentier de marine peut-être à l'origine, menuisier, ébéniste. Les différents membres de cette famille s'étaient peu à peu fait une spécialité de tailler le bois en fines baguettes qu'ils travaillaient à moulurer, ciseler, ourler. Chaque génération savait au moins aussi long que la précédente, à la faveur d'un capital de connaissances patiemment thésaurisées, jalousement gardées et transmis à la génération suivante. Mais il fallait aussi vivre avec son temps. De nouveaux matériaux étaient apparus qui supposaient de nouvelles techniques. Les dorures et les teintes côtoyaient les badigeons et le travail à la feuille d'or. L'encadrement est un art de la greffe. Il s'ajoute à un premier objet. C'est presque un art parasite. Il demeure que c'est un art en soi, un art à part entière. Art double, en vérité. Art du cadre par lui-même. Harmonisation du cadre avec son support. C'est le rôle du cadre, d'orienter le regard en son cœur, non de s'y opposer ou de l'en distraire, pas plus qu'il ne doit être tapageur et prédominer sur l'œuvre. Cela ne signifie nullement qu'un bon cadre doive être nécessairement discret ou invisible. Le cadre doit s'imposer comme une évidence, se fondre dans l'ensemble, faire corps avec l'objet qui l'en chasse, au point qu'il doit non point tant se faire oublier que se mélanger, engager un dialogue ininterrompu, de sorte qu'on ne pourrait l'ôter ensuite sans se faire l'impression de diminuer l'œuvre elle-même, de lui arracher un membre. La pudeur du regard s'en trouverait choquée, comme à la vue d'un corps nu ou amputé. Le cadre est tout à la fois contenant et contenu. Il est un réceptacle et lui-même se cantonne à ses bords, ne déborde pas sans pour autant constituer une limite à son support, qu'il soit toile, photographie, miroir. Chaque nouveau cadre constituait pour M. Follet un défi, mais il y avait des défis plus redoutables que d'autres. Ainsi, celui que lui soumirent les grognards. Ceci l'avait fait travailler quelquefois sur des tableaux du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais le défi ici était d'une toute autre envergure. Ils déballèrent avec précaution une toile représentant des formes insolites, aux couleurs vives et variées, une œuvre à n'en pas douter d'avant-garde, qui tranchait avec les styles dont ils semblaient ordinairement coutumiers. Des ronds jaunes, des cubes verts, des triangles mauves, des queues de comètes orangées sur un fond bleu nuit. Monsieur Follet ne savait dans quel sens tenir le tableau. Madame Grognard dut venir à son secours, montra des signes d'impatience comme si la lecture de cette toile constituait une évidence. Monsieur et Madame Grognard étaient venus s'enquérir d'un cadre. Monsieur Follet, pour se débarrasser, fut tenté de leur dire qu'une telle œuvre n'en nécessitait aucun. Où commence-t-elle, où finit-elle? Il louait les anciens qui savaient l'art de planter un décor ou de dessiner un portrait. Mais des ronds et des cubes, qu'est-ce que cela voulait dire? Pourtant, il n'en disconvenait pas, il y avait de l'adresse dans ce tableau, et même un certain tour de main. Il s'enquit de son auteur. Il fut surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un local, mais un local qui avait depuis longtemps gravi les échelons de la gloire et quitté la région pour gagner les sphères de la renommée internationale. Il prit soudain conscience que ce petit tableau, au format 60 par 80, était inestimable, aussi bien que s'il tenait entre ses mains un lingot d'or. C'était à tout le moins une marque insigne de confiance de la part de ses clients que de le lui confier. Avez-vous une idée de cadre? S'enquit-il. Monsieur Follet comptait un peu sur les grognards pour l'aiguiller. De son côté, le couple attendait de la part du professionnel un conseil et des propositions. Monsieur Follet commença à fouiller parmi ces échantillons qu'il connaissait sur le bout des doigts. Il cherchait visiblement à gagner du temps, réfléchissait en même temps. Il pouvait sans risque proposer un rappel d'une des couleurs du tableau. Les clients minaudaient. À chaque suggestion, ils répliquaient de concert, comme s'ils avaient leur idée sur la question. Non, ce n'est pas cela. Monsieur Follet se pinçait les lèvres pour ne pas leur rétorquer. Au lieu de me dire ce qui ne convient pas, gagnons du temps. Dites-moi plutôt ce qui conviendrait. François Follet séchait, littéralement, et contenait difficilement son agacement. Il était pourtant d'une nature calme et bienveillante. Les clients commençaient eux-mêmes à s'agacer, le prenaient de haut, lui signifiaient implicitement par leurs buffades répétées que s'il ne se sentait pas à la hauteur d'une telle œuvre, il fallait le dire tout de suite. Ils iraient frapper à une autre porte. Monsieur Follet avait son honneur. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais renoncé à une tentative d'encadrement, hormis peut-être 2 ou 3 fois dans toute sa carrière, eu égard à la qualité du support. Il leur demanda un délai de réflexion. Une telle œuvre, assez visionnaire et futuriste, appelait assurément un cadre qui sortait de l'ordinaire. Les grognards y consentirent, ils n'étaient pas si pressés. Cependant, ils rappelèrent à toutes fins utiles à M. Follet qu'il détenait un petit trésor. Longtemps, ils l'avaient négligemment accroché à un mur de leur maison, sans s'aviser de sa valeur. Mais la cote de l'artiste avait flambé entre-temps. Le regard qu'il portait sur lui avait changé. M. Grognard eut cette formule. Nous préférons à présent le mettre sous cloche. Monsieur Follet n'avait pas voulu se donner de délai. Il avait dit qu'il les appellerait quand il aurait d'autres idées. En vérité, une seule bonne idée serait déjà inespérée, compte tenu de la gageure, encadrer un tableau qui n'avait à ses yeux ni queue ni tête. Il pensa d'abord qu'il fallait laisser faire les choses, que l'inspiration lui viendrait à un moment ou à un autre. Il se donna à lui-même pour conseil ce lieu commun, c'est lorsque l'on ne cherche pas que l'on trouve. Il était dans la position de quelqu'un qui entreprend de résoudre une équation à plusieurs inconnues. Il ne savait à quel saint se vouer. Il pria néanmoins et laissa agir sa prière. Les jours passaient, aucune lumière ne traversait son esprit. Afin de ne pas perdre de vue son objectif, il plaça le tableau bien en évidence face à son atelier. L'effet fut désastre. Non seulement il n'avait pas de meilleure idée pour le tableau, mais il était moins concentré sur ses autres tâches. Il commit de petites erreurs de coupe qu'il dut reprendre. Il se faisait l'effet d'avoir régressé. Il pensa que cette méthode trop nonchalante et attentiste ne pouvait réussir dans le cas présent. Il y fallait plus de bonne volonté. Il n'en tenait qu'à lui. Il se décida même à consulter sa femme, l'air de rien. Il commença par la sonder sur ce qu'elle pensait de l'œuvre. Était-ce un avis très féminin, à l'instar de Madame Grognard? Il fut surpris d'entendre de la bouche de son épouse: Ma foi, ou je n'y connais rien, ou c'est un authentique chef-d'œuvre. Quel langage secret parlait l'artiste, qu'il faisait vibrer en Madame Follet une corde sensible. Il voulait des explications. C'est difficile à exprimer, lui répondit-elle. Les couleurs sont magnifiques, elles se répondent, les lignes s'équilibrent, tout y est virtuose. Elle demanda le nom de l'artiste dont la signature n'était pas visible. Comment, s'écria-t-elle, nous avons un Richard T dans la boutique? Elle demanda aussitôt, en femme possédant du sens pratique, sommes-nous bien assurés pour des œuvres d'une telle valeur? La réponse était contenue dans la question. Elle se révolta. Et tu laisses cette œuvre à tous les vents alors qu'elle devrait être dans un coffre. Cette remarque fit écho aux mots qu'avait eus M. Grognard sous cloche. Ces paroles tracèrent leur sillon. Il s'endormit sur cette idée. Il rêva dans la nuit que quelqu'un pénétrait dans sa boutique, prévenu on ne sait comment que l'œuvre s'y trouvait. Au matin, il ne pouvait que constater le vol. Il entendait du bruit, et les mouvements qui se faisaient autour de lui semblaient si réels qu'il finit par se réveiller. Les bruits n'étaient nullement imaginaires. Il constata qu'il était seul dans le lit, se leva en quête de son épouse. Il se dirigea vers l'atelier où, guidé par la lumière, il retrouva Madame Follet en pâmoison, devant la toile du maître suspendue au-dessus de l'établi. Plus je la contemple, commenta-t-elle, à la faveur d'un raisonnement entamé plus tôt, plus j'y découvre des nuances variées. Elle paraît simple au premier abord, mais elle est en réalité constituée d'une multitude de traits infimes qui tissent entre eux des correspondances et trouvent un écho dans le regard. Monsieur Follet comprit soudain mieux l'intérêt des femmes à l'endroit d'une telle œuvre. Elles ont en effet le sens du détail, ont la faculté d'entrer dans une œuvre par la petite porte, tandis que le regard de l'homme embrasse l'ensemble, la femme en discerne les parties. Madame Follet était rarement sujette aux insomnies. Il fallait que quelque chose la préoccupe. C'est cette toile, avoua-t-elle à son mari. Sa présence dans la boutique sans protection m'inquiète. Il faudrait que tu t'en débarrasses au plus vite. N'as-tu donc toujours aucune idée de cadre? Il y avait dans sa voix un reproche implicite. Il tenta de se justifier. Ce sont des clients très exigeants. Sa femme lui objecta que tous les clients ont leurs exigences. Le tout est d'identifier leurs besoins. Monsieur Follet se cherchait des excuses. La toile elle-même semble rétive à passer le joug d'un cadre, comme si elle était jalouse de sa liberté, comme si l'artiste avait placé en elle le germe de l'insoumission. Elle me tient tête. Si elle pouvait parler, elle me dirait « Passe ton chemin !» Madame Follet secoua la tête. « Il n'existe pas de cheval qui ne puisse être débourré. Cherche encore, tu en deviendras le maître. Ces chevaux-là, qui sont le plus craint, sont souvent aussi les plus toniques et les plus talentueux. Cette œuvre a beaucoup à donner. Elle ne se laisse pas domestiquer au premier regard. Elle te résiste en proportion de ce qu'elle a à te livrer. » Monsieur Follet entendait bien les arguments de Madame Follet, qui, en un sens, lui accordait une absolution provisoire, mais qui, en un autre sens, insinuait que toute la carrière de son époux s'était dépensée à encadrer des croûtes sans valeur. Son mérite s'en trouvait singulièrement diminué. Il préféra ne pas relever le gant pour éviter de déclencher une scène de ménage à 2 heures du matin. Cette remarque lui fit mal néanmoins et eut pour effet salutaire peut-être de le piquer au vif. Madame Follet avait instillé insidieusement le doute dans l'esprit de son époux quant à ses qualités d'artisan. Il ne s'était jamais confronté à d'autres. C'est un secteur d'activité où les professionnels ne sont pas mis en concurrence. On entrait pour un cadre et on ressortait avec un cadre. Voilà tout. François Follet ne s'était jamais demandé s'il aurait pu faire mieux ou différemment d'un autre. Le couple finit par aller se coucher. Monsieur Follet ne trouva pas le sommeil. La quête du cadre idéal s'était transformée en quête du Graal. Au matin, abruti par une nuit si agitée, il se rappela cette parole de Monsieur Grognard à propos du tableau. « Nous préférons le mettre sous cloche. » À cette parole faisait écho la réflexion de sa femme. « Tu devrais le ranger dans un coffre. » Par quel chemin détourné cette idée accède à la lumière? Quoi qu'il en soit, il eut une révélation à l'aube. L'idée était si originale, s'éloignait tellement des standards, qu'il douta au premier abord de son sérieux. Il prit même peur de son audace, il savait cependant devoir courir ce risque. Il le voyait déjà, ce cadre, ou plutôt ce non-cadre, cette allusion de cadre, ce mirage qui auréolerait la toile du maître. Ce n'était pas tout d'avoir l'idée. Il fallait encore à présent qu'elle puisse se matérialiser. Il n'avait pas la matière première dans son atelier. Il devait trouver un fournisseur. C'était la part de son travail qui allait lui demander le plus d'efforts. On eût bien été étonné du côté où l'entraînait sa quête, celui des entreprises achalandées en matériel de sécurité. Il avait caché à tous, et d'abord à sa femme, sa trouvaille. Non qu'il pensait qu'elle n'adhérerait pas à la fin à son idée, mais il avait déjà si peu confiance en lui qu'il n'osa risquer une confidence qui pouvait le stopper dans son élan. Du reste, il attendait les premiers essais, voulait vérifier par l'expérience sa théorie. S'il échouait, eh bien, il n'y aurait pas de déshonneur. Il garderait son idée pour lui et nul n'en saurait rien. À force de se documenter, M. Follet apprit l'existence d'un plexiglas capable de résister aux chocs et aux feux et de filtrer les UV. Il pensa que c'était le matériau le plus adéquat. Ce cadre répondrait à une double finalité. Rendre le tableau inviolable, ni le feu, ni les rayons du soleil ou de la lune ne pourraient en ternir les couleurs, et répondre accessoirement au cahier des charges, à savoir lui donner en effet un cadre. La commande fut livrée sous quinzaine. Il œuvra ensuite sans relâche pendant 3 jours. Il découpa, lima, arrasa les plaques. Il avait commandé plus de matière que ce dont il avait besoin. Il imaginait qu'il y aurait des loupés. En réalité, la matière était facile à travailler. Il y mit tout son savoir-faire. Sa dextérité fit le reste. La préparation des éléments du puzzle avait été un jeu d'enfant. Plus délicat s'annonçait l'assemblage. Il inséra le tableau à l'intérieur des encoches ajustées à ses angles. 4 morceaux étaient intercalés dans les tranches de l'épaisseur du tableau qui rejoignaient les 2 plaques externes et pressées de façon à enserrer celui-ci hermétiquement en leur sein. Monsieur Follet avait hésité à poser des vis aux 4 angles. Il eût fallu percer des trous, ce qui aurait risqué d'abraser le plexiglas et de lui occasionner des micro-fissures. Tout aurait été à refaire. Pire, d'éventuels défauts auraient pu se révéler avec le temps, bien après la livraison, à la faveur d'un choc. Il opta pour un serrage autobloquant et s'autorisa juste une goutte de colle translucide à chaque angle. Le cadre se démonterait tout aussi bien par un coup bien appliqué aux encoignures. Par ce procédé, le kit d'assemblage restait invisible. On eût dit que le tableau avait été conçu primitivement avec son cadre, à la manière de ces bateaux miniatures échoués à l'intérieur d'une bouteille en verre. Il appela monsieur et madame Grognard. Il les convoqua sans leur dire d'abord que le cadre était fait. Sans doute pensait-il encore à ce stade que monsieur Follet voulait leur soumettre une ou plusieurs idées et recueillir leur avis. Quand ils se présentèrent, il leur présenta la toile emballée, ce qui eut pour effet de les décontenancer. Tandis que M. Grognard déchirait le papier, il crut devoir se fendre d'une explication à leur adresse. « Vous n'auriez pu vous représenter un résultat dont je n'avais pas moi-même idée. Il me fallait vérifier tant le concept est original et novateur que la chose fût seulement possible. Il s'agit d'un essai. » Son cœur palpita lorsque M. et Mme Grognard reculèrent, tandis qu'ils maintenaient l'œuvre dans leur direction à la façon d'un chevalet. Passé la surprise, il y eut une minute d'atermoiement et de réflexion qui parut à M. Follet interminable et durant laquelle M. et Mme Grognard semblèrent traverser tous les stades de l'imprégnation. Les 2 époux se consultèrent du regard. Ce n'était à l'évidence pas ce qu'ils avaient imaginé. Mais force leur était d'admettre que l'effet était saisissant. Madame Grognard écourta le supplice de Monsieur Follet. Elle s'exclama « Vous êtes un génie !» Monsieur Grognard, qui avait plus de nuances, se fendit d'un nouveau bon mot. « Vous parliez tout à l'heure d'un essai, vous êtes trop modeste. Sachez que votre essai, si c'en est un, est transformé. L'idée de suspendre cette œuvre dans les airs est positivement lumineuse. Nous n'y aurions pas pensé, mais maintenant que nous l'avons sous les yeux, nous sommes convaincus qu'il ne pouvait en aller autrement. » 2. Tremblement de père. Dès le lendemain de son coup d'éclat, Monsieur Follet avait éprouvé un sentiment d'abattement général, un déficit de motivation dans son travail. Pour la première fois de sa carrière, retiré dans son atelier, il se trouvait sec. Ce n'était pas qu'il manquait de travail. Plusieurs commandes de cadres étaient en attente, mais le cœur n'y était plus. Il avait réalisé des centaines, peut-être des milliers de cadres. Pour aboutir à celui-là, le seul qui justifiait toute sa production précédente. Il y avait un avant et un après Comment accepter de renouer avec ses anciennes habitudes, fruit de la facilité, de replacer ses roues dans les ornières déjà tracées? Quand un artiste a conscience d'avoir produit l'œuvre de sa vie, que lui reste-t-il à exprimer? Il ne pourrait tout au plus que se parodier lui-même à la façon d'un faussaire qui peint ou écrit à la manière d'eux. Après une telle secousse, il peut y avoir des répliques, mais jamais un séisme d'une telle amplitude. L'artiste sent qu'il vaudrait mieux pour lui se taire à jamais. Une telle œuvre a été réalisée un peu par surprise, à la façon d'une intuition fulgurante, soutenue de bout en bout, comme s'il était suspendu au-dessus du vide, marchant sur un fil. S'il devait s'y reprendre à présent, il verrait le vide et chuterait. Flaubert ne pouvait écrire qu'une Madame Bovary. L'artiste est identifié à une œuvre et l'œuvre à son auteur. Ils deviennent, pour ainsi dire, synonymes. On dit à présent c'est du Proust ou du Stendhal. Sans vouloir se comparer à ces grands artistes, M. Follet pensait qu'il en allait un peu de même à son niveau. Il ne pourrait désormais que se répéter. En vérité, il se répétait déjà depuis 30 ans, mais il n'en avait jamais pris conscience comme avant ce jour. C'était la différence entre l'artiste et l'artisan. Il avait fait œuvre jusque-là d'artisan. L'artisan acquiert un savoir-faire, se répète indéfiniment. L'artiste crée, innove, cherche sans cesse à se renouveler. Il peut avoir des périodes, mais précisément, une période succède à une autre. Après avoir exploré une période, il meurt ici pour renaître ailleurs. Il se juxtapose. Il en va de même pour ceux qui vivent plusieurs vies en une. Ceux-là n'admettent pas d'être les artisans de leur existence. Ils veulent en être les artistes, c'est-à-dire en prendre l'initiative et la mener à bon port. Ah, soupirait-il, si seulement je pouvais me permettre, je ne ferais plus que des cadres sur mesure. Pour la première fois de sa vie, M. Follet aspirait, au sens propre, à sortir du cadre. Sortir du cadre revenait pour lui un peu à s'extraire de sa vie, à emprunter les chemins de traverse, au risque de dérailler. Pourquoi n'irais-tu pas rendre visite à Philippe? S'exclama Madame Follet, dont l'esprit venait d'être frappé par cette idée. Il n'y avait pas pensé. Plus exactement, il ne se croyait pas autorisé à quitter sa boutique un seul jour. Monsieur et Madame Follet avaient un fils unique, Philippe. Celui-ci semblait promis à reprendre la boutique à son tour. Son destin était tout tracé. Il n'y avait pas de raison qu'un maillon de cette longue chaîne humaine se rompe. Monsieur Follet avait tenté de l'attirer dès ses plus jeunes années dans l'arrière-boutique pour lui mettre le pied à l'étrier. Mais le jeune Philippe préférait, à la pénombre froide et poussiéreuse de l'atelier, la clarté du jour, les couleurs chatoyantes des huiles, des aquarelles et des pastels, les cadres reluisants sous les dorures et les lumières. L'enfant tenait davantage de sa mère. Madame Follet avait un caractère franc et entier, tandis que François Follet était un être introverti qui ne quittait qu'à contre-cœur sa souricière quand tintait la sonnette de la boutique. De surcroît, Philippe démontrait peu de disposition au métier manuel. Il préférait habiter des sphères plus éthérées. De fait, sa vocation était boiteuse. Son père pensait qu'il développerait, avec l'âge, les qualités requises pour s'inscrire naturellement dans sa lignée, que ce n'était qu'une question de temps, que ses gènes allaient parler au pire, s'il n'était vraiment pas doué dans l'exécution, Philippe pourrait être secondé par un homme de main et s'illustrerait davantage dans la vente. Le couple Follet sortait peu, il était confiné, presque confit dans sa boutique et sa maison attenante. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'il avait sur place? C'est peut-être un paradoxe, mais c'est sans quitter la boutique familiale, de façon incidente et inattendue, que Philippe rencontra sa véritable vocation, au lieu même où elle semblait exclue. Philippe avait découvert le cheval, d'abord par les gravures, avant que de les voir au pré. Son père avait acquis auprès d'un client tout un lot d'anciennes gravures anglaises. Ces gravures ne payaient pas de mine en l'état, mais après avoir subi un toilettage minutieux et placé sous vitre, elles furent rendues au prime éclat de leur jeunesse que rehaussait avantageusement la patine du temps. Philippe éprouva d'emblée une admiration sans bornes pour ces bêtes juchées sur de hautes pattes, à l'encolure en forme de volute, à la robe lustrée, aux naseaux déliés. Cet avant-goût augura bien de sa rencontre véritable avec l'animal. Philippe dut insister pour que M. Follet l'emmène dans un meeting équin. Il n'avait pas été déçu à proprement parler. Le gala comptait de beaux spécimens. Cependant, ceux-ci ne pouvaient rivaliser avec la représentation idéale des gravures. Les bêtes semblaient encore trop lourdes, leurs sabots, trop englués à la terre, leur corps, trop empâtés. En un mot, elles étaient trop rustiques à son goût. Plus tard, il entendit parler du cadre noir. Ce n'était pas si loin. Saumur était à moins de 2 heures de route. Il y plaça beaucoup d'espoir. M. Follet vit l'occasion d'emmener sa famille à un spectacle mémorable, car la notoriété du haras avait tout de même atteint l'antre sombre de sa boutique. Philippe était prévenu. Il n'y avait rien au-dessus. Si la magie n'opérait pas, il devrait reconnaître avoir fantasmé un animal qui n'existait pas. Autant vouloir domestiquer une licorne. C'est l'inconvénient de découvrir une chose par son reflet. Philippe reconnut d'emblée les mêmes museaux effilés, les crinières tressées, la jambe fine et démesurée, le petit croc pas chassé ou de côté, ses croupes noblement façonnées en sorte qu'il aurait pu croire ses chevaux échappés des gravures anglaises de son enfance. Le coup de foudre fut instantané. Il fut convenu à l'issue d'une initiation. La passion de Philippe se confirma à l'occasion d'un stage. Madame Follet, heureuse que son fils ait une passion, décida d'autorité de lui faire prendre des cours d'équitation. Son père obtempéra, d'autant qu'on ne lui demanda pas son avis. Plus tard, quand il fut un cavalier aguerri et chevronné, Philippe brigua le cadre noir. Il y fut admis l'année suivante. Monsieur Follet accepta avec une satisfaction matinée d'inquiétude cette nouvelle folie. Il y voyait presque une trahison de sa lignée. Seul le soutenait l'idée que Philippe ne ferait que quitter en définitive un cadre pour un autre. Il espérait que le cadre noir portait bien son nom. Il était compliqué cependant pour Monsieur Follet de faire le deuil de son fils dans la boutique. Monsieur Follet trouvait que l'idée de sa femme de rendre visite à Philippe lui ferait le plus grand bien. Mais quand Madame Follet lui montra qu'elle pourrait très bien se débrouiller seule à la boutique en semaine, ce serait l'occasion de partager de bons moments avec Philippe durant ses entraînements. Il reviendrait le vendredi soir pour le samedi, qui était un jour faste. Monsieur Follet se laissa convaincre, il partit donc sans sa femme. C'était également là une première, et il éprouva des sentiments mêlés de liberté et de culpabilité. Après toutes ces années, peut-être était-il prêt enfin à sortir de sa chrysalide, aboutissement d'une lente et longue évolution de son être pour aboutir à sa métamorphose. La décision s'était prise si vite que sa venue avait été annoncée à son fils la veille. Philippe avait été tellement surpris qu'il était demeuré sans voix au téléphone. « Cela te dérange ?» lui avait demandé sa mère en proie soudain à un doute. Philippe avait nié qu'il y eût le moindre inconvénient. Tout au contraire, il se déclara ravi l'instant d'après. Sa mère, qui le connaissait assez, comprit qu'il soupçonnait un événement grave survenu dans la famille qui ne pouvait s'annoncer par téléphone. Sa mère s'empressa de le rassurer. Pour l'apaiser tout à fait, elle se fendit d'une courte explication. « À l'âge qui est celui de ton père, il est bon de prendre quelques vacances, et je crois qu'il vit mal ton départ. » Elle se réjouissait pour eux. « Vous allez avoir plein de choses à vous dire. » Le père et le fils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs semaines. François Follet ne reconnut pas Philippe. Sa voix, à la fois pleine d'autorité et de profondeur, avait le don d'apaiser les bêtes et de les discipliner. Elle savait être avec lui entre de bonnes mains. Il les amadouait par des caresses et des grattages bien appliqués aux endroits sensibles. Le procédé était certes rudimentaire, mais efficace. Il avait pour habitude de dire que les bêtes ne lisent pas Shakespeare, qu'elles sont encore moins adeptes des théories de Freud. Il fallait donc trouver entre elles et lui un dénominateur commun, le langage corporel et quelques mots indéfiniment répétés pour tout bagage. Muni de ce sauf-conduit, toutes les portes des boxes lui étaient ouvertes. Lorsqu'il le flairait, les chevaux sortaient leurs longues têtes des boxes et c'était merveille que de voir cet alignement de naseaux fumants, les plus impatients hennissant dans l'attente fébrile de son passage. Il avait établi un rituel à heure fixe auquel les bêtes se soumettaient. Ce rituel, paradoxalement, trompait une certaine monotonie dans l'organisation parfois un peu mécanique des journées et en même temps y concourait. Philippe montait souvent Terre d'Asile, une jument de 8 ans. Il voyait dans ce nom, lui qui n'était pas issu du milieu équin, un clin d'œil, l'ouverture d'un monde sur un autre, presque une prophétie. Monsieur Follet était heureux de revoir son fils. Toutefois, il était troublé à son contact. Était-ce qu'il avait accompli sa mue pour devenir un homme après seulement quelques mois? Était-ce ce port altier que lui conférait l'exercice régulier de sa monture? Il était racé, volontaire, discipliné. Tout un pan de sa personnalité s'était développé. Monsieur Follet pensa, sans doute, au détriment de celui de sa lignée. Il en émanait quelque chose dans ses manières, dans l'expression de ses traits, dans sa manière de se déplacer. Il fendait l'air de sa haute stature, l'entrejambe arquée, caractéristique des cavaliers, flanquée de hautes bottes en cuir lustré, qui lui prêtaient un air martial, le buste serré dans une veste élégante qui rappelait les uniformes militaires d'antan. Le fils constata le léger malaise qui avait gagné son père, qu'il mit sur le compte de la pudeur. François ne chercha pas à justifier sa présence ici. Il ne raconta pas à Philippe l'épisode du cadre qui avait occupé ses jours et ses nuits. Il parlait rarement de lui et uniquement à la demande de son interlocuteur et encore. Parfois, fallait-il insister. Sa femme disait... Il faut toujours lui arracher les vers du nez. Son entourage était convaincu qu'il n'avait sans doute pas grand-chose à dire, puisqu'il n'éprouvait jamais le besoin de se confier. On n'était même pas toujours sûr qu'il comprît ce qui se passait autour de lui. Il démontrait en revanche une grande qualité d'écoute. Certaines fois, il surprenait par la pertinence et la justesse de ses conseils. Ses avis témoignaient d'une hauteur de vue, d'un détachement, d'une sagesse qui tranchait avec son apparente bonhomie, en sorte que la seconde impression venait corriger heureusement la première. Philippe, en mal de confidence, après quelques minutes de gêne, et précisément pour en meubler les silences, commença à raconter sa nouvelle vie. Il cherchait aussi un peu à se justifier après avoir quitté précipitamment le domicile parental, conscient d'avoir trahi un tant soit peu ses origines. Son père ne lui en faisait certes pas le grief, mais le jeune homme était pris dans un conflit de loyauté qu'il essayait de résoudre par ses propres moyens. Il travaillait deux fois plus qu'un autre, comme s'il était redevable d'une dette impossible à solder, n'en sachant ni le montant, ni de qui précisément il était le débiteur. Son père, devinant ses conflits intérieurs, l'exhorta à plus de modération. « Donne de toi simplement le meilleur, sans excès, ou tu finiras par t'en dégoûter et par agacer les autres. Un jour, peut-être, en suivant ta mesure, tu découvriras que tu as engrangé plus que tu ne pensais, et tu pourras alors puiser dans cette manne. » En parlant ainsi, M. Follet pensait sans doute aussi à ce qu'il en avait été pour lui. Il avait lui-même emmagasiné assez de savoir-faire pour enfin innover, tel un don juan du cadre, mille et un cadres, pour finalement trouver l'amour et ne plus envisager dorénavant son métier de la même manière. Les gradés de l'école crurent que le père était venu faire sa tournée d'inspection. Ils voulurent donner une bonne image d'abord d'eux-mêmes, ce qui passait par quelques flatteries et beaucoup de complaisance à l'égard du fils Follet. Le directeur, un homme petit et sec comme un jockey, proposa une visite des quartiers, du manège et des écuries. Il détailla l'emploi du temps autant des chevaux que des cavaliers, l'un et l'autre n'allant pas forcément de pair, ces explications venaient en doublon de celles de Philippe. M. Follet les écouta néanmoins patiemment, afin de ne pas ôter au directeur le sentiment de son importance. À la fin de l'exposé, M. Follet n'eut qu'une question qui le taraudait depuis longtemps en vérité et qu'il trouvait enfin l'occasion de formuler. « Que faites-vous des chevaux quand ils sont trop âgés ?» Le sujet était épineux et dérangeait. Le directeur ne voulut pas cependant paraître se défausser. Eh bien, soit il trouve un maître pour l'agrément ou la reproduction, soit ceux-là ont un sort moins enviable, ils finissent en animaux de boucherie. Enfin, c'est rare. Monsieur Follet ne trahit aucune émotion. Il se contenta de demander si le haras comptait des bêtes bientôt en fin de carrière. Le directeur lui répondit qu'il y en avait trois à sa connaissance. Deux étaient réservés, la troisième n'avait pas encore trouvé preneur. « Il s'agit d'un bel étalon pourtant, expliqua le directeur, sans doute l'un de nos meilleurs, mais que voulez-vous, sa carrière est derrière lui. » Il eut une lueur d'espoir car lui-même se montrait soucieux du devenir de ses chevaux. « Pourquoi, vous seriez intéressé ?» Monsieur Follet secoua la tête, il n'y connaissait rien, il n'avait même pas un prix. Le directeur lui exposa qu'il n'était nul besoin de s'y connaître pour avoir un cheval. « Il faut juste prévoir un budget annuel pour le foin, l'entretien, le vétérinaire, le maréchal ferrant. Il est également possible de louer un box à l'année dans un haras. » Il tenta de le prendre par les sentiments. Et puis, pensez à votre fils. » Philippe était resté à l'écart et n'entendait pas la conversation. Il devina cependant qu'on parlait de lui. au regard que les deux hommes posaient sur lui. Il s'approcha. « J'ai parlé à votre père de champion du marais, » énonça le directeur sur le ton de la boutade. Puis, se tournant vers M. Follet, il déclina son pédigré. « C'est un grand champion, comme son nom l'indique. Il a été de toutes les parades. Il a longtemps mené le manège, mais depuis un an, il est moins rigoureux, son pas perdu en précision. Il mérite qu'on lui offre une retraite digne de sa carrière. » Coincé entre le directeur et Philippe, M. Follet eut l'impression d'être tombé dans un traquenard. Il botta en touche. « Je dois d'abord en parler à madame. » Le directeur, en homme qui avait vécu, lui adressa un clin d'œil à la virilité complice, l'air de dire « Allez, je sais ce que c'est. Si c'est madame qui porte la culotte, prenez-la par les sentiments. Elle ne saurait rien refuser à son fils. » Il comprenait d'ailleurs très bien que M. Follet voulut se ménager un délai de réflexion. Ce n'était pas une décision qu'on pouvait prendre à la légère. Quand ils se séparèrent, Philippe proposa à son père de rendre visite aux chevaux qui étaient au pré. Il souhaitait évidemment lui montrer le fameux champion du marais dont le directeur lui avait fait l'article. Les talons partageaient son champ avec Biftec, un poney ombrageux qui n'avait jamais pu se lier d'amitié avec aucun de ses congénères de même taille et qui, cependant, ne supportait pas la solitude. Il s'entendait en revanche à merveille avec ce partenaire à l'allure princière. Il en va de la psychologie animale comme de la psychologie humaine. Les accointances entre les individus sont mystérieuses et n'obéissent à aucune règle préétablie. Pourquoi deux natures s'accordent-elles dans la vie quand elles semblent devoir plutôt se repousser sur le papier? S'ils partageaient leur pâture en bonne intelligence, sitôt que quelqu'un entrait dans l'enclos, Biftec se rebellait. Ouara, on avait l'habitude de dire « Quoi de plus normal? Il défend son Biftec !» Biftec avait surtout l'angoisse d'être séparé de son camarade de chambré. Dès que champion du marais quittait son champ, il renaclait, hennissait de toutes ses dents, piquait des sprints phénoménaux, heureusement contenus par la clôture, qu'il avait tout de même fallu renforcer. Et, à l'adresse de ceux qui n'auraient pas encore pris la mesure de son mécontentement, il effectuait des bonds et des ruades spectaculaires qui rappelaient les prouesses de dressage dont étaient capables ses congénères de grande taille. On s'imaginait qu'il les avait copiés à force de les côtoyer, alors que c'était probablement ses excès de fureur qui en étaient seule cause. M. Follet s'étonna de ce paradoxe. « Ainsi, les chevaux prestigieux du haras doivent libérer la place quand ils ont fait leur temps. Mais ce poney capricieux reste à demeure. » Philippe eut un sourire un peu gêné. « Il y a une histoire de femme là-dessous, » lui susurra-t-il à voix basse, tant ce genre de confidence à l'adresse de son père lui était inhabituel. « Ah ! » s'exclama M. Follet. Philippe aurait pu s'arrêter là, mais il se crut engagé à parler après cette révélation. « L'un des cavaliers du quart est très épris d'une femme mariée. Cette femme mariée a une fille. Cette fille réclamait depuis longtemps un poney. » Pour séduire la mère, le cavalier a offert un poney à la fille. Cette explication en forme de sophisme piqua plus encore la curiosité de M. Follet. La chute ne venant pas, ce dernier se crut autorisé à demander à son fils si le stratagème avait réussi. Philippe rougit de sa formule, mais il répétait les termes crus qu'il avait lui-même entendus de la bouche de certains écuyers qui en faisait volontiers entre eux des gargarismes. Le mari est cocu, le mérite en vient assurément à Biftec, qui restera aussi longtemps au champ, on peut le supposer, que dureront les amours clandestines de cette dame et du cavalier. Ceci explique peut-être son caractère bien trempé. Les deux hommes parlaient pour la première fois de femme. Peut-être parce que la seule qui faisait le lien entre eux et éclipsait toutes les autres était, par dérogation aux habitudes de la famille, absente. François Sanhardi a demandé à Philippe, maintenant qu'il était devenu un beau cygne, au port noble et altier, et qu'il avait revêtu l'uniforme prestigieux du cadre noir, s'il ne tournait pas la tête à quelques-unes. Philippe fut décontenancé par une question aussi abrupte. Il hésita. S'il répondait de façon négative, c'était faire l'aveu de ses difficultés avec le sexe, et il semblait qu'il aurait l'air un peu ridicule aux yeux de son père, lequel n'était certes pas un séducteur. S'il répondait de façon affirmative, il mentirait, mais au moins il sauverait la face. Il opta pour une réponse de Normand. « Je ne peux rien te dire. » Ces airs mystérieux intriguèrent évidemment M. Follet, qui se voyait déjà accompagnant Philippe à l'hôtel et courant derrière des petits-enfants. Il comptait beaucoup que, si Philippe ne reprenait pas sa suite, la vocation du métier sauterait une génération. Il en déduisait qu'il ne pourrait prendre sa retraite à l'heure dite, ce qui entrait quelque peu en contradiction avec ses projets récents de lâcher la bride. Il se soutint à l'idée que son essoufflement du métier n'était peut-être que passager. François Follet aurait été curieux de voir de quoi avaient l'air le dit cavalier et la femme pour qui il s'était fendu de ce petit caprice. Il n'osa cependant en faire la demande à Philippe. Il pensait que s'ils croisaient l'un ou l'autre, celui-ci signalerait spontanément à son attention les protagonistes de ce romanesque adultère. Philippe appela Champion du Marais. Celui-ci releva la tête de dessus sa pâture avant de mettre tout son corps en branle en direction de la barrière. De loin, on remarquait son allure majestueuse. De près, c'était un géant. D'un souffle des naseaux, il aurait pu décoller le chapeau de la tête d'une dame. La barrière avait été surélevée. Pour autant, s'il l'avait voulu, il lui eût été aisé d'effacer d'un bond magistral cet obstacle qui le séparait de la liberté. Il était rompu à cet exercice, il avait remporté des concours internationaux. Ce n'était que l'absence de cavalier sur son dos bizarrement qui ne lui en donnait pas l'idée. Il émanait de l'animal une puissance qui subjuguait, alliée à la sérénité souveraine que confère bien souvent le sentiment de sa force à celui qui en est le détenteur, quand il n'a pas à en faire usage. Tel un Pégase, il semblait conscient de sa capacité à emporter qui le voulait sur sa croupe. Monsieur Follet se sentait minuscule devant lui et presque honteux de son insignifiance. Il se disait que le dénommé Beefsteak eût mieux correspondu à ses attentes en matière d'équidés. Le poney, jaloux de son compagnon, ne voulait pas être en reste. Il suivait la scène depuis tout à l'heure de son gros œil rond. À la fin, n'y tenant plus, il galopa vers eux en hennissant. Il comptait bien attirer sur lui l'attention. Il passait et repassait à l'intérieur de l'entrejambe galbée de son camarade. Les deux s'emboîtaient, tels des poupées gigognes, sans que l'un n'empiète jamais sur les sabots de l'autre. C'était peut-être cela le secret d'une cohabitation réussie. Vivre chacun dans sa sphère, se développer dans les creux de son partenaire pour se sentir ensemble plus complet. François fit part à son fils de ses inquiétudes. « Un tel animal, moi qui n'y entends rien !» Son fils lui rétorqua que lui s'y connaissait désormais assez pour deux, qu'un grand ou un petit cheval n'y changeait rien, à compter que cela restait un cheval. Un champion du marais valait assurément deux beefsteaks par le gabarit, mais taillés dans une même pièce. D'ailleurs, à tout prendre, l'entretien d'un grand était plus commode que l'entretien de plusieurs petits. Ce n'était qu'une bouche à nourrir et quatre sabots à ferrer. Philippe tenta d'en appeler au sentiment de son père. Enfin, papa, il ne saurait finir sur l'étal d'un boucher. C'est une bête unique. Par ailleurs, un tel étalon mérite d'avoir une descendance. En réalité, Champion du Marais avait déjà beaucoup essaimé. Il était un des rares étalons à être entier, car la possession de ses attributs n'avait en rien altéré ni ses facultés ni son caractère. Cette considération anatomique mise à part, Philippe souhaitait actionner les cordes sensibles de son père, dont il connaissait les rouages secrets et les contrepoids internes, lui faire miroiter un potentiel d'ordre pécuniaire était selon lui le plus sûr moyen de l'inciter à investir. Il touchait là son âme commerçante, rouée aux affaires, et se réservait de convaincre sa mère le moment venu sur le même mode. Comme attendu, François Follet eut une seconde d'hésitation avant de se reprendre, suivant le même réflexe qu'il avait eu tout à l'heure en présence du directeur. Nous en reparlerons avec ta mère. Ils étaient encore à échanger des amabilités avec ces deux spécimens de la gent équine, quand deux femmes, une blonde et une brune, qu'ils voyaient approcher depuis tout à l'heure, arrivèrent à leur hauteur. Elles étaient à pied, comme eux, et profitaient de ce moment pour tout à la fois prendre un bol d'air et discuter. Bonjour, mesdames, s'exclama Monsieur Follet. Or, la boutique, ces simples mots de la civilité la plus élémentaire, résonnaient étrangement aux oreilles de Philippe, qui s'était peut-être déshabitué de certains accents de la voix de son père. S'il avait eu un chapeau, celui-ci se serait probablement découvert. À défaut, il se pencha dans un geste de révérence qui confirma Philippe dans sa première impression. Il regarda mieux les deux femmes. Aucune ne lui paraissait mériter le lucre d'un hommage aussi pompeux. Elles avaient la cinquantaine, certes fringantes, mais ses yeux de jeune homme ne voyaient en elles que des vieillardes, des mères d'enfants qui pourraient avoir son âge, presque des grands-mères. Aussi les confondait-il dans le même regard, sans pouvoir les distinguer l'une de l'autre. Monsieur Follet s'effaça afin de leur laisser la place devant la barrière. Qu'il est beau, dit la première. Et lui, qu'il est craquant, commenta la seconde. François Follet s'invita dans la conversation. Attendez, le plus drôle est quand le petit passe sous les jupes du grand. Et comme s'il avait voulu illustrer les propos tenus par Monsieur Follet, Beefsteak glissa dans l'entrejambe de Champion du Marais. Les deux femmes éclatèrent de rire. Je vous avais prévenu, lança François Follet leur décochant un clin d'œil. Philippe se tenait en tiers, spectateur de son père. Il n'était pas en capacité de dire s'il en était une plutôt que l'autre, ou si c'était l'effet conjugué des deux qui conduisait le respectable monsieur Follet à faire soudain démonstration d'élégance. Je vous présente Champion du Marais, mon cheval. Plus bas, il s'empressa de rajouter à l'oreille de la blonde, de la blonde qui avait une coupe au carré. Enfin, c'est tout comme, les discussions sont en cours. Philippe ne savait plus que penser. Il avait appris, du moins, à laquelle des deux était destiné ce beau discours. Ce verbiage produisit son petit effet sur la belle. Elle minauda. Oh, mais vous ne sauriez faire de meilleur choix, il est magnifique. Je rêverais de pouvoir le monter un jour. François s'enflamma. C'est comme si c'était fait. Sitôt qu'il est à moi, je vous en ferai profiter. Il mit la main dans sa poche. Il tenait toujours prête, réflexe de professionnel, un lot de cartes de visite pour répondre à toute rencontre impromptue de clientèle. Je suis amenée à venir régulièrement. Peut-être aurons-nous le plaisir de nous revoir. Il était dévoré par l'envie de lui demander son numéro, mais la présence de Philippe l'en empêcha à l'évidence. Voici mon fils. Il était soudain fier de se faire valoir à son côté. La femme brune se manifesta alors. Je jurerais que vous montez aussi. Seriez-vous élève du cadre? S'ensuivirent des considérations assez banales sur le cadre noir. On dit que. Est-ce vrai que? Philippe confirma certaines rumeurs, en infirma d'autres. C'était un pis-aller. Il s'agissait de s'enchevêtrer, de gagner la confiance et, si possible, l'amitié les uns des autres. Philippe se trouvait intégré à la conversation. Malgré lui, il avait la sensation désagréable de servir de monture à son propre père, mélange de Don Quichotte et de Sancho Panza dans son rapport à ses jantes d'âme. Les deux femmes prirent enfin congé après une dernière caresse sur le museau des deux équidés. François se montra soudain pressé de s'en retourner. Voilà qu'il souhaitait parler au directeur. Celui-ci, justement, traversait la cour comme ils arrivaient. Alors, vous êtes décidé, s'exclama le directeur. J'étais sûr que lorsque vous verriez champion du Marais, vous seriez conquis. Conquis, Philippe pensa à part lui que son père l'avait incontestablement été, quant à savoir par qui. Il est des grandes décisions qui se délibèrent pour des motifs tronqués, futiles ou fallacieux. Si les raisons diffèrent, les objectifs demeurent. À l'éther, la gloire y gagne. Cependant, une question taraudait Monsieur Follet. Il finit par demander à son fils, sur un ton fébrile et presque suant de peur, tant il redoutait la réponse, n'est-ce pas l'une de ces deux dames qui est à l'origine de la présence de Biftec? Ce qui était une manière élégante de demander, ne serait-ce pas l'une de ces deux dames la maîtresse en titre de l'écuyer? Philippe hésita. Il finit par répondre que c'était bien l'une des deux. François Follet eut des frissons rétrospectivement à la pensée d'avoir flirté avec l'interdit. La brune. Au grand soulagement de son père. Était-ce un effet de cette réponse, pleine de promesses, François Follet décida de rester. Il espérait peut-être secrètement avoir une occasion de revoir son Amazone à la coupe au carré. Il fallait aussi tout organiser, acquitter les frais, louer une place au haras. Finalement, pour peu qu'on y mît le prix, il n'y avait rien là de sorcier. Monsieur Follet ne revit pas l'Amazone et dut, contraint, reprendre le chemin de la boutique dès le vendredi soir. Au moment de la séparation, l'émotion l'envahit. Il confia à son fils que ces moments partagés étaient trop rares à son goût et qu'il faudrait les renouveler. Philippe avait des raisons de douter de la sincérité de ses paroles, mais son père balaya ses doutes quand il ajouta: essaie aussi de revenir plus souvent à la maison. Cela fera plaisir à ta mère. François avait effleuré le sujet sans oser l'aborder frontalement. Les parents vivaient le départ de leur fils comme un abandon, quoiqu'ils fussent conscients que c'était dans l'ordre des choses. Monsieur Follet rentra chez lui après cet épisode de vie, bref mais intense, qui avait passablement bouleversé son ordonnancement intérieur. Les retrouvailles avec Madame Follet furent cordiales, comme elles peuvent l'être après plusieurs décennies de vie commune. Du reste, Monsieur Follet ne s'attachait guère à ces considérations. Depuis longtemps, la pointe de son désir était émoussée. Il avait la tête ailleurs. Tout son être était resté au cadre noir. Aux questions de sa femme sur Philippe, il répondait sans se dérober, avec d'autant plus de facilité qu'il pouvait ainsi mieux dissimuler ses véritables pensées. Il n'osa annoncer tout de suite à Madame Follet la grande décision qu'il avait prise sur un coup de tête. Il savait devoir emprunter quelques détours. C'était un monde tellement différent, pour ainsi dire, aux antipodes du sien. Lui disciplinait une matière morte, le bois, la peinture, la photographie. Philippe domestiquait du vivant, des animaux doués d'une personnalité propre, dotés d'une force peu commune qu'il devait soumettre, mais qui pouvait d'une ruade renverser la hiérarchie. Les parents vivaient dans une atmosphère confinée, alors que Philippe était perpétuellement au grand air. Il lui raconta que c'était un beau gaillard. Tu verrais comme il a pris de l'assurance. C'est un homme maintenant. Il porte bien l'uniforme. Il a de la prestance. Monsieur Follet savait que ces paroles flatteraient nécessairement l'orgueil d'une mère. Cela ne manqua pas. Il va commencer à plaire aux femmes, conclut-elle presque à regret. Elle ajouta, afin de solliciter sa confidence, à ce propos, il ne t'a rien dit là-dessus? Monsieur Follet était déjà plongé dans ses méditations. Il sembla se réveiller. Pardon, les femmes, quelles femmes? Ah oui, je n'ai rien pu savoir. Je lui ai pourtant posé la question. Il s'est montré très discret. Il a même rougi un peu. Madame Follet garda d'abord un silence incrédule. Elle pouvait comprendre qu'un père et son fils pussent avoir leur petit secret. Elle aurait juré que son mari lui cachait quelque chose. Allons, finit-elle par répliquer. Entre un père et son fils, ce sont des sujets qu'on aborde. François Follet lui certifia qu'il lui disait tout ce qu'il savait. Madeleine fit mine d'acquiescer. Il est jeune et encore timide. Cela viendra en son temps. François Follet en profita pour rebondir sur ce qui le préoccupait. Il est un sujet sur lequel il s'est montré beaucoup plus loquace, celui des chevaux, évidemment. Madame Follet leva de grands yeux, comme si c'était une évidence. Il eut le sentiment qu'elle ne voyait pas où il voulait en venir. Aussi dut-il préciser sa pensée. Vu son niveau actuel et ses ambitions, il lui faudrait un cheval à lui. Monsieur Follet jugeait sage de prendre prétexte de son fils pour légitimer un projet tout autant personnel et convaincre Madame Follet d'y adhérer. En femme d'affaires avertie, Madame Follet posa la seule question qui lui parut devoir à ce stade être posée. Combien? Elle jugea le prix très raisonnable, presque symbolique. Monsieur Follet lui expliqua qu'il s'agissait d'un cheval en fin de carrière, promis à l'abattoir. Madame Follet était sensible au sort animal, aussi était-elle heureuse d'en servir la cause, ce qui rehaussait encore la magnanimité de ce geste. Quand on a une passion, dit-elle, comme si c'était elle-même qui la première en avait eu l'idée, il est normal d'investir. Le pianiste a son piano, le cycliste son vélo, au cavalier il faut un cheval, bien sûr, et un cheval à la hauteur de son talent. Monsieur Follet s'empressa de l'édifier sur ce point. On n'aurait su avoir de meilleures références. Un véritable champion, comme en attestait d'ailleurs son nom. L'événement faisait date. Il méritait que Monsieur Follet décroche lui-même son téléphone, tâche qu'il déléguait d'ordinaire à sa femme. Il annonça à Philippe que sa mère ratifiait l'achat de Champion du Marais. Ce n'est pas tellement qu'il eût réussi à convaincre sa mère qui surprit Philippe, car il savait son père capable d'une grande force de persuasion lorsqu'il voulait quelque chose. Non, ce qui le surprenait tant, en revanche, c'est que son père se montra si entêté dans son projet après un seul séjour au cadre noir, et même après avoir retrouvé ses marques à la boutique, dans son lieu de vie habituel. Ce n'était donc pas qu'une simple passade. Monsieur Follet avait hâte de retourner à Saumur. Il n'osait s'en ouvrir à sa femme. Ce fut elle qui l'y incita. On vit, dès la semaine suivante, la silhouette de Monsieur Follet hanter les écuries et les paddocks à la façon de ces fantômes attachés aux vieilles demeures à la présence desquelles on sait qu'il va falloir s'habituer. Monsieur Follet n'osa demander à son fils s'il pourrait espérer revoir cette dame blonde à la coupe au carré dont il ne savait le nom, qui avait produit sur lui un si grand effet. Philippe devina néanmoins ses pensées. Il connaissait le jour et l'heure approximative où les deux dames effectuaient leur promenade hebdomadaire. Elles étaient très ritualisées, tributaires de leurs horaires de travail et des activités de leurs enfants. Afin d'être agréable à son père, et parce qu'il voyait bien que celui-ci n'y tenait plus, il proposa de rendre visite à Champion du Marais. Lorsqu'ils furent en chemin, M. Follet se faisait l'effet d'avoir acquis, depuis la semaine dernière, un titre de noblesse, une distinction honorifique qui le hissait directement au rang des gens qui ont de l'importance. Lui, d'ordinaire si simple, si humble, qui ne tirait jamais fierté même de ce dont il aurait pu s'enorgueillir, voilà qu'il frétillait d'aise et bombait le torse. Il marchait moins qu'il ne paradait. Et, comme tous les fats qui sont projetés dans un monde qui n'est pas le leur, il reste toujours quelque chose de leur ancienne condition, une gestuelle, une expression, jusqu'à la pose contrefaite qui les trahit. Philippe n'était pas sans ignorer le nom de ces dames qui étaient bien connues du haras. Cependant, il n'entendait pas pour l'heure leur donner une identité dans l'esprit de son père. Il lui en coûtait déjà assez d'être associé à ce projet de rencontre coupable à l'insu de sa mère. Il cédait pour aujourd'hui, tablant sur un prompt retour à la raison de son père. Monsieur Follet se montrait particulièrement enjoué. Il parlait beaucoup, ce qui ne lui était pas habituel, comme s'il cherchait à dissimuler ses intentions derrière sa logorrhée facile. Ils arrivèrent au pré. Champion du Marais fit mine de ne pas les remarquer. Ingrat, commenta M. Follet, désireux de lui annoncer lui-même qu'il était désormais son nouveau maître. Biftec se précipita quant à lui vers la barrière dès qu'il les vit, en hennissant de toutes ses dents. Les reconnaissait-il? Il était trop avide de contact pour qu'on pût l'affirmer. Champion du Marais suivit finalement son exemple d'un pas lourd et nonchalant. « L'as-tu monté depuis qu'il est à toi ?» demanda M. Follet à son fils. Philippe n'avait pas eu le temps d'y songer. Et puis, il ne réalisait pas encore que, par un tour de passe-passe administratif, il en était désormais le légitime et unique propriétaire. C'est seulement à présent que, ainsi adoubé par son père, il se reconnaissait le droit de jouir librement de sa monture. Une forte émotion l'étreignit quand il lui passa le licol. À cette vue, Biftec comprit qu'il allait être séparé de son compagnon. Il manifesta, par des protestations bruyantes, qu'il ne l'entendait pas de cette oreille, constatant que, à l'évidence, on ne l'écoutait pas, il galopa dans la direction opposée en multipliant les ruades. François et Philippe Follet en profitèrent pour ouvrir la barrière et sortir Champion du Marais de son enclos. Quand Biftec comprit qu'on l'avait floué, il se précipita dans leur direction à fond de train, trop tard. Loin de se calmer, Il fit mine de vouloir sauter l'obstacle, mais il ne convainquit personne. Il tempêtait, renâclait, grattait la terre de son sabot. Il suivit tant qu'il put le cortège le long du pré. Ses frontières stoppèrent sa course, ce qui redoubla son agacement tempétueux. Champion du marais restait, quant à lui, imperturbable, comme insensible aux assiduités dont il était l'objet, marchant au pas, aux côtés de Philippe, sans tirer sur la bride. Les protestations d'amour sont souvent d'un seul côté. Monsieur Follet eut cette réflexion peu obligeante à l'endroit du poney. Il est inconcevable qu'un mâle s'attache de la sorte à un autre mâle. Il s'agirait d'une femelle, je comprendrais, mais enfin, un étalon. Philippe fut surpris d'entendre un discours peu habituel dans la bouche de son père. Le sujet des mœurs n'était jamais abordé à la maison. Il aurait apprécié que son père développe sa pensée, mais un événement heureux, tant attendu, vint les interrompre. La silhouette des deux femmes se profilait à l'horizon. Les deux amies arrivaient droit sur eux, comme si elle les avait pour point de mire. En réalité, la carrure impressionnante de champion du marais et surtout le ramdam de Biftek les avaient alertées bien en amont. Cette fois, les deux dames crurent nécessaire de se présenter l'une et l'autre à Monsieur Follet. La dame à la coupe au carré s'appelait Charlotte Duplessis et son amie Amélie Minaudran. Monsieur Follet avait l'esprit entraîné dans son commerce à retenir les noms à la première audition. Cela flattait le client, le mettait en confiance, lui donnait l'illusion qu'il était déjà un familier, ce qui contribuait à le fidéliser. En l'occurrence, il n'était nul besoin pour lui de forcer sa nature. Il accueillit le nom de Charlotte sans surprise, aussi bien que s'il avait su dès le premier regard qu'elle ne pouvait que se nommer ainsi. Il présenta son fils et, sans attendre que Philippe lui rende l'appareil, il déclama dans une révérence « François Follet, pour vous servir ». Philippe souleva imperceptiblement la bride de son cheval, qui pressa la cadence. Il laissa les trois aînés en arrière. Il préférait rester sourd aux banalités et aux platitudes qu'ils étaient, il le sentait, sur le point de débiter mutuellement. Il ne put toutefois se garantir tout à fait et eut le temps d'entendre par bribes ses questions. « Vous êtes d'où ? Vous êtes venu avec la mère de Philippe ? Vous venez souvent ?» Chacun cherchait visiblement à connaître les habitudes de l'autre pour se donner à l'évidence des occasions réciproques de se revoir. Madame Minaudran courut à la hauteur de Philippe. Le plus grand de ses fils était bon cavalier, mais n'avait pas persévéré à son grand dame. « Votre père peut être fier de vous, » commenta-t-elle. Elle voulait aussi s'assurer que champion du marais et Biftek ne seraient pas séparés. Philippe la rassura. Il n'entendait pas modifier les habitudes de son cheval. Biftek était son repère et, par surcroît, une vraie sirène ambulante. Au moindre problème, il donnait l'alerte. « C'est un gardien à plein temps qui permet de maintenir champion du marais, au pré, toute la belle saison. « Tant mieux !» répartit Madame Minaudran. « Si le poney va bien, ma fille va bien. Et si ma fille va bien, je vais bien. Vous verrez, jeune homme, la vie est un grand jeu de domino. » Philippe se retint de répliquer. Oh, mais vous savez, madame, il y a longtemps que je m'en étais rendu compte. Il fit observer que les dominos ont deux faces. Madame Minaudran marqua un temps d'arrêt et se tourna vers lui, frappée par cette image. En effet, nous avons tous deux visages et six côtés. Le binôme qui les suivait les rattrapa. Madame Minaudran apostropha Monsieur Follet. Vous avez un fils très mature pour son âge, savez-vous? Un brin philosophe. De qui tient-il? De son père ou de sa mère? À moins que ce ne soit des deux. François Follet ne s'en attribuait pas le mérite. De sa mère, certainement. Madame Duplessis s'inscrivit en faux. Je ne connais pas sa mère, mais je crois déjà pouvoir dire qu'il tient de son père. Monsieur Follet rougit à ce compliment. Il avait déjà entendu dire que certaines femmes ont le don de conférer de l'esprit aux hommes. Il se sentit bête de ne pas répondre. Madame Duplessis y vit plutôt une marque de modestie qu'il honorait. Charlotte posa des questions sur Champion du Marais, dont elle admirait la robe et l'encolure. Elle exprima sa hâte de le voir monter par son nouveau propriétaire. Monsieur Follet fut rappelé à son boniment, dont il n'avait pas mesuré les conséquences. Il avait fait à croire qu'il était un cavalier émérite, lui qui n'avait même jamais escaladé le dos d'un poney. Il comprenait qu'il allait devoir commencer très vite de prendre des cours. Pour l'heure, afin de masquer sa propre turpitude, il convia Philippe à se mettre en selle. Ils approchaient des écuries, Philippe partit chercher son équipement, tandis que Madame Duplessis, en cavalière aguerrie, tenait les talons par la bride. Charlotte proposa de faire une sortie à cheval tous ensemble, une fois prochaine. Amélie applaudit sans réserve à cette idée. Monsieur Follet fit mine d'être tout aussi ravi. Il s'en ouvrit à Philippe quand celui-ci revint. Toujours dans son rôle, le jeune homme se contenta de partager l'enthousiasme de ses aînés sans trahir le mensonge de son père. Philippe monta sur Champion du Marais et parada devant ces dames qui se dirent impressionnées par l'aisance naturelle du garçon sur sa monture. Madame Minaudran consulta sa montre et vit qu'elle s'était oubliée. Il était plus que l'heure d'aller chercher sa fille à son cours de violon. Le professeur devait l'attendre. Elle entraîna Charlotte à sa suite, qui semblait contrariée. Elles s'excusèrent, mais promirent de prendre plus de temps une prochaine fois. Quand elles furent parties, Monsieur Follet demanda à son fils une faveur. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Philippe lui répondit: Nous commençons demain. 3. Domino. Un père qui apprend à son fils quoi de plus normal? Chaque génération de l'étage supérieur lègue son savoir à la génération suivante, tissant un fil ininterrompu depuis que le premier homme existe. Mais un fils qui apprend à son père, voilà qui n'est assurément pas dans l'ordre des choses. Pour autant, ce mouvement de reflux, loin d'ôter au père, constitue la juste récompense de tant d'heures de dévouement, de tant de sacrifices. Il amortit en quelque sorte le long et coûteux investissement que représente l'éducation d'un enfant. Cet échange interactif est le gage de la communion des sangs. Les rapports s'équilibrent, le rang des âges s'abolit au profit de la transmission des compétences, indifféremment de la source. Un domino seul ne sert à rien. Il n'a de domino que le nom et l'apparence, non la fonction. Il faut deux dominos au moins pour qu'ils se justifient l'un l'autre et qu'ils s'assurent mutuellement de leur existence. Peut-être qu'un homme qui ne fait pas souche, soit par le sang, soit par l'esprit, est un domino isolé. Quand il tombe, il n'entraîne personne à sa suite, ne se transmet pas. Il est moins contagieux à l'humanité qu'un virus. Il n'a peut-être de l'homme que l'apparence et que le nom, mais ne remplit pas sa fonction immanente. Plus que servir l'humanité, il la dépareille. Philippe mit son père en selle dès le soir même. Ils commencèrent sur un double poney. On n'apprend pas à conduire sur une voiture de course, mais au volant d'un véhicule familial, compact et maniable. François Follet s'en voulut de s'être targué de qualités qu'il ne possédait pas. Il se disait que Charlotte ne lui aurait certainement pas fait grief de ne pas savoir monter. Tout au contraire, un père qui cède un si grand caprice à son fils dans un domaine qu'il ne connaît pas eût plutôt accru ses mérites. L'instant d'après, il se disait qu'il leur avait donné à tous deux un motif de se revoir. Si elle avait su qu'il ne montait pas, elle n'eût pas proposé une promenade à cheval. En tout état de cause, il ne pouvait prétendre fréquenter une cavalière s'il était le seul homme à pied dans ce haras. Il appela Madame Follet pour lui expliquer qu'il allait passer plusieurs jours sur place. Celle-ci fut tout à la fois ravie et angoissée à l'annonce de ce stage intensif. Elle consentit à gérer seule la boutique, mais elle faisait une condition qu'il revienne à ses côtés au moins la semaine suivante, car ils avaient reçu plusieurs commandes et lui seul était en capacité de les honorer. Elle l'exhorta à la plus grande prudence, car elle redoutait qu'il se casse quelque chose, pas encore une jambe mais un poignet. Il ne serait plus bon à rien, autant mettre la clé sous la porte. François Follet apprenait beaucoup au contact de l'animal, et d'abord à se tenir droit. Philippe apporta quelques corrections à son maintien. Il lui conseilla de regarder loin devant lui et de se cambrer davantage. Il lui expliqua que toutes ses vertèbres allaient être mises à rude épreuve, d'autant que son âge diminuait ses facultés de récupération. Philippe dut en effet raisonner son père, qui ne voulait plus quitter la selle. Il le prit un peu par l'orgueil et beaucoup par les sentiments. Et beaucoup par les sentiments. Que dirait Madame Duplessis si elle voyait un cavalier soi-disant confirmé cloué au lit? François Follet, à qui ses désirs inspiraient des réparties décidément aussi fantasques qu'osées, répliqua. Eh bien, elle penserait que j'ai fait une chute de cheval. Avec un tel as que notre champion du marais, il n'y aurait rien là d'étonnant. Et il imaginait déjà tout le parti qu'il pourrait tirer de la situation. Madame Duplessis à son chevet. Il savait toutefois qu'il devrait bien se relever un jour et s'illustrer à ses yeux sur son vaillant destrier. Or, ce n'était certes pas en restant alité qu'il ferait des progrès. Aussi jugea-t-il plus sage d'observer les recommandations de son fils. Le lendemain, M. Follet se leva avec difficulté. Il procéda à quelques étirements pour assouplir ses articulations endolories. L'enthousiasme de François Follet eut raison de ses raideurs qui s'estompèrent graduellement quand il fut sur le dos de l'animal. Des réflexes semblaient acquis, jambes et fessiers épousant la selle, maniement de la bride et des étriers, conservation de l'équilibre. Constatant que son père avait validé les bonnes positions à la marche, Philippe souhaita passer à l'étape du trot. François n'osa s'y soustraire, en dépit d'angoisses mal contrôlées, car il craignait de s'envoler sans savoir comment se rattraper. M. Follet ressentit soudain une vive douleur au niveau du sacrum. Il n'osa s'en ouvrir à Philippe, mais celui-ci devina à son pincement de lèvres et à sa respiration entrecoupée que l'épreuve lui était pénible. Il lui recommanda d'assouplir le bassin, de s'abandonner au mouvement du cheval sans tenter d'y résister. « De la souplesse » lançait-il à tout instant à son père. Après quelques réticences, François Follet s'abandonna néanmoins, Le cheval y gagna en fluidité. Tout son squelette, ses muscles, ses tendons commençaient à s'aguerrir sous la contrainte, étaient à la limite de rompre. Je comprends mieux, se disait-il, l'allure si spécifique des cavaliers. On distingue dans la foule qui l'est et qui ne l'est pas. Il redoutait l'œil affûté de Madame Duplessis, qui ne serait pas dupe. N'était-il pas déjà pour elle un nouveau Monsieur Jourdain? À la fin de la matinée, les deux hommes prirent le temps de déjeuner. François Follet éprouva le plus grand mal à poser le pied au sol et à enchaîner deux pas. Philippe dut le soutenir avec fermeté. Le fils devenait, en cette circonstance, le pilier sur lequel pouvait s'appuyer le père. Décidément, l'inversion des rôles se confirmait. Ils rejoignirent côte à côte le réfectoire. Un jeune homme se détacha du groupe pour venir au-devant de Philippe. Son élan fut quelque peu contrarié par la présence de M. Follet. Philippe lui présenta son père. Il expliqua que celui-ci était venu prendre des leçons d'équitation. S'adressant alors à M. Follet, le jeune homme demanda « Philippe est-il un bon professeur ?» François hocha la tête, l'air un peu fataliste. L'autre eut cette sentence sans appel. Faire du cheval requiert une discipline de fer. Quant à avoir de la discipline, M. Follet pensait certes en avoir, et peut-être même un peu plus que ce blanc-bec qu'il n'osa pas moucher devant Philippe d'une répartie cinglante. Son sens de la discipline se doublait également d'un sens du tact et du savoir-vivre dont était à l'évidence dépourvu ce malotru. Il était le premier convaincu que sans discipline, tout irait à volo, puisque, selon sa vision des choses, le monde même devait être assujetti à un cadre pour tourner rond. « Je te présente Jean-Jérôme, » s'exclama Philippe. « Dis Gigi pour les intimes, » annonna Jean-Jérôme, visiblement fier de son effet, tandis qu'il tendait la main en direction de M. Follet, lequel hésita à s'en saisir. Au lieu d'une poignée virile, François Follet reçut entre ses doigts une brochette de tiges molles et poisseuses dont le contact et la texture lui déplurent passablement. « Ah, Dieu ne plaise, se dit-il, que j'ai eu pour fils un Gigi. » Il conserva son cant à soi, mais il camouflait sous cap un petit rire goguenard. « Gigi !» se répétait-il. « Pour sa défense, il faut dire qu'il était un peu groggy par plusieurs heures de trop, qu'il avait secoué comme un prunier, il en avait l'estomac retourné. François mangea avec frugalité, au prétexte de vouloir rester aussi léger que possible, mais craignant en vérité d'être indisposé. Gigi accaparait Philippe, à moins que ce ne fût le contraire. Mis à l'écart, M. Follet fit mine de rien, mais ne resta pas longtemps à table. Aussitôt qu'il se leva, ce fut comme un signal. La conversation entre Philippe et Gigi s'interrompit et le fils courut rejoindre son père au manège sans finir son assiette. Les premières minutes furent un supplice. François Follet avait mal au dos, il perdait l'équilibre, il était noué à tous les étages, Philippe dut lui rappeler les bases. François pensait être débarrassé de ce Gigi pour un moment. Or, voici qu'il fit son apparition dans le manège. Il venait en spectateur, moins curieux sans doute des progrès du néophyte que des enseignements dispensés par le jeune maître. François Follet voulut faire honneur à son fils. Comme si un ressort en lui s'était actionné, ses blocages se levèrent soudain. Il acquit la conviction à cet instant que le secret d'un bon cavalier réside au moins autant dans la condition mentale que dans les aptitudes physiques. Peut-être le déclic se fit-il à cet instant. À chaque tour de manège, François épiait les deux garçons qui chuchotaient. Il pensa qu'il devait parler fille. C'était la principale préoccupation à leur âge. Les sourires en coin et les regards qu'ils s'échangeaient témoignaient d'une grande complicité et de secrets qu'ils avaient en partage. François s'étonnait que son fils pût entretenir un lien privilégié avec celui qui, de tous les garçons qu'il avait croisés au cadre, lui ressemblait assurément le moins, tant par ses attitudes lascives, sa voix contrefaite, que par sa mèche, plaquée sur un côté de la tête, qui rappelait la coupe d'une autre époque. Les attirances en amitié sont tout aussi mystérieuses qu'en amour, songea-t-il. Bienveillant envers son fils, M. Follet s'accusa ensuite de juger un peu vite sur les apparences, alors que ce camarade pouvait présenter d'autres intérêts qui ne se voyaient pas au premier coup d'œil. Le second jour d'entraînement s'acheva sur ces entrefaites. M. Follet était contrarié et il n'en comprenait pas la cause, quoique ses progrès fussent constants. Il voulait s'essayer au galop dès le lendemain. Philippe lui déconseilla de brûler les étapes. Le galop était éminemment risqué pour un cavalier peu aguerri. Philippe proposa cependant à son père un exercice d'un genre nouveau dès le lendemain, afin de l'obliger à prendre davantage appui sur ses étriers et à se décoller de la selle. Il lui remit un long bâton qui faisait office de lance. Cette méthode était destinée à le préparer au galop. Il fallait à M. Follet désapprendre ce qu'il avait appris. Les muscles des jambes étaient très sollicités. François Follet devait tenir sa lance du côté droit sur tout un parcours, puis du côté gauche. Gigi vient de nouveau jouer les curieux. Il aperçut en contre-jour la silhouette de cet homme vieillissant, perché sur sa frêle monture, muni de sa lance pointant vers le ciel. Il ne manqua pas d'être saisi par l'image de ce Don Quichotte. Il admirait les méthodes du fils à l'endroit du père. Il fit ce commentaire. « Tu es aussi bon professeur que cavalier. » Philippe goûta le compliment. Gigi était déjà parti quand M. Follet eut fait le tour complet du manège. Il se mordit les lèvres pour ne pas demander à Philippe ce qu'il s'était dit. Il comprenait qu'ils étaient moins intimes que ces deux-là et qu'il obtiendrait pour toute réponse ou bien un silence embarrassé ou bien un mensonge circonstancié. M. Follet avait l'impression d'avoir traversé d'immenses steppes durant ces 3 jours. Le temps semble bien employé lorsqu'il est rempli à chaque seconde. En dépit d'un stage si court, il se sentait d'ores et déjà prêt à parader devant Madame Duplessis. Il se surprit à soupirer son nom, Charlotte. Il était temps pour lui de rentrer à la boutique. Les commandes, comme pour le contrarié, affluaient. Madame Follet appelait au secours. Elle ne pouvait faire face. François Follet était inquiet de devoir déjà quitter la selle. Son fils le rassura sur le ton de la boutade. Le cheval, c'est comme le vélo. Cela ne s'oublie pas. Monsieur Follet réintégra ses pénates après cette courte mais intense escapade. Il émanait de sa personne un air frais de liberté. Sa femme le pressa de questions. Il prononça plusieurs fois le nom de Gigi, d'abord par inadvertance, quand son esprit fut soudain frappé par une évidence qu'il n'avait pas voulu voir quand il était là-bas. Madame Follet crut pouvoir conclure que leur fils se sentait seul et avait noué un lien exclusif, quasi fraternel, avec un jeune de son âge, lequel pouvait de son côté souffrir du même isolement. Cette explication convainquit moyennement François Follet. Il n'osait cependant formuler avec netteté ses pensées là-dessus, de crainte de devoir s'avouer des vérités qui lui eussent été pénibles. Par un mécanisme d'autodéfense, chaque individu, à des degrés divers, développe une propension à l'autocensure. Une part de M. Follet résistait encore. Les récits d'aventure de son mari piquèrent au vif Madame Follet. Elle eut l'envie subite de faire le voyage. Elle se donnait pour prétexte qu'une bonne mère se montre curieuse de l'environnement dans lequel son enfant évolue. La fermeture annuelle du mois d'août approchait. Au lieu de végéter dans un gîte anonyme comme chaque année, ils iraient au plus près de Philippe. François Follet cravacha. Pour rattraper son retard à la boutique, il travaillait de façon mécanique mais efficace. Ce qu'il avait appris plus ou moins bien en 3 jours de stage au cadre n'avait évidemment rien retranché à son savoir-faire d'artisan. Ses mains couraient toutes seules sur le bois, réussissaient les coupes d'assemblage presque en aveugle. C'était pour lui, comparé à l'équitation, un jeu d'enfant. La matière inerte était moins récalcitrante, moins imprévisible que le dos d'un cheval en perpétuel mouvement. Madame Follet était une femme d'une nature discrète qui se mêlait peu des affaires des autres. Sa discrétion confinait au détachement et pouvait passer pour de la froideur ou du désintérêt. Derrière une apparente raideur, elle restait cependant très attentive aux besoins de son cercle immédiat. Elle se tenait à distance, certes, mais ne quittait jamais ses jumelles, à l'instar d'une douairière installée au balcon d'un théâtre qui ne veut rien manquer du spectacle. Madame Follet, s'invitant dans leur pré-carré, il fallait bien au mari et au fils lui ménager une petite place, lui découvrir une part de leur intimité. Ce n'était pas facile. Madeleine Follet identifia Gigi entre tous sitôt qu'elle le vit. Ce jeune homme ne lui fit pas meilleure impression qu'à M. Follet. Pour autant, elle n'en montra rien. Elle ne voulait pas décevoir Philippe, qui était tout à la joie de lui présenter son camarade. Ses parents se concertèrent cependant d'un regard par-dessus son épaule et tombèrent d'accord sur la moiteur écœurante de ses mains et la volute ridicule de sa mèche, ce qui semblait augurer du reste. Philippe était fier de proclamer à sa mère les talents de cavalier de son père, François Follet paradait sur sa monture, Madame Follet, qui n'y connaissait rien et pensait que monter un cheval nécessitait seulement un peu d'application, ne fut guère impressionnée. Tout ce qu'elle retint de la démonstration fut l'ascendant que le fils avait sur le père. Elle se fendit d'une pique. « Je ne sais comment tu fais pour lui commander. Quant à moi, je n'y arrive pas. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. »
Cette remarque était très exagérée. Après tant d'années de vie commune, Monsieur Follet avait assimilé les goûts et les désirs de sa femme, au point que, depuis longtemps, il ne les distinguait plus des siens. Le cours même de sa nature avait été dévié. Le lit de ses nouvelles habitudes s'était creusé. Il devenait dès lors à M. Follet très difficile d'en sortir. Ce n'était pas mauvaise volonté de sa part, mais plutôt une moindre souplesse de caractère et une adaptabilité plus difficultueuse avec l'âge. M. Follet accueillait avec philosophie certaines remarques cinglantes de sa femme. Il ne relevait pas le gant, sachant par ailleurs que ses petites vexations quotidiennes n'avaient rien de méchant. Madame Follet voulait tout voir, tout connaître. M. Follet décida de faire cavalier seul. C'était le cas de le dire. Il prétexta qu'il avait déjà visité les écuries, les boxes, les manèges, pour confier le soin à Philippe de faire faire à sa mère le tour du propriétaire. La principale angoisse de M. Follet était que sa femme tombe, au cours de son séjour, nez à nez avec Madame Duplessis. Il ne voulait pas être là si cela arrivait. Mère et fils s'en furent donc de leur côté. François Follet avait confiance en Philippe. S'il croisait Madame Duplessis, il ne trahirait pas son secret. Il se demanda d'ailleurs l'instant d'après si même il avait un secret, puisque de fait, il n'avait jusque-là rien commis de répréhensible. Ce n'était certes pas deux conversations improvisées et quelques cours d'équitation qui allaient mettre fin à sa vie d'honnête homme. Madame Follet était assez fine mouche, du coche, pour flairer d'un mot, d'un geste, quelque entourloupe. Plus d'une fois, elle avait joué le rôle de conseillère conjugale auprès de clientes habituelles, sur la motivation desquelles on pouvait légitimement s'interroger si le projet de cadre n'était pas en réalité un prétexte pour solliciter Madame Follet. Elle revenait ensuite et s'exclamait « Ah, Madame Follet, il n'y a que vous pour comprendre !» François Follet s'était souvent demandé d'où Madeleine tenait cette science. Elle qui n'avait connu qu'un homme, il en avait eu la preuve, par la saignée Vermillon, dont le drap nuptial avait été maculé au matin de leur nuit de noces, et sa fidélité ne faisait pas de doute, à compter qu'elle ne quittait, pour ainsi dire, jamais la boutique. Contrairement à une idée reçue, une femme en apprend autant d'un homme en toute une vie que celle qui multiplie les conquêtes mais n'en conserve aucune. Celle-ci reste à la surface, sans jamais lever le voile sur les mystères de la nature humaine. Elle ne connaît pas les hauts et les bas, les joies et les affres de l'existence. Partant, elle n'apprend pas elle-même à se connaître dans les épreuves et les tempêtes d'un couple. Il y a autant de différence entre ces deux espèces de femmes qu'entre l'étudiant qui s'inscrit à différents cours, se disperse entre plusieurs matières sans décrocher aucun diplôme, et celui qui se passionne pour une matière, s'abîme dans son étude durant des années laborieuses et n'en sort qu'une fois son diplôme en poche. En vérité, le premier se satisfait de banalités connues de tous, tandis que le second est un savant estimé qui sera en capacité de dispenser son savoir à son tour. S'appliquant son propre raisonnement, François Follet se demanda comment il se faisait qu'il n'était pas lui-même plus perspicace, car pour sa part, il devait bien le reconnaître, il ignorait tout des femmes. Était-ce que les hommes étaient plus monolithiques, plus prévisibles que leurs homologues féminins? Tant si Madame Follet parvenait aussi bien à former son jugement, c'était aussi probablement parce qu'elle-même recelait plus de complexité qu'il n'y paraissait. Soudain, François fut saisi d'un doute. Et si Madeleine dissimulait, sous des dehors calmes et raisonnés, une âme de feu, un cœur en ébullition, des pulsions inavouées? Qui sait ce qui se trame dans la tête de celui qu'on croit connaître, parce qu'on le voit tous les jours, au point qu'une part de sa personne nous est retranchée? Voilà peut-être la meilleure cachette qui soit, le masque du quotidien, qui est bien le dernier endroit où nous aurions l'idée de le débusquer. Nous échouons à sonder l'âme de nos proches. Leurs yeux nous renvoient notre regard à la façon d'un miroir, sans qu'il nous soit possible de pénétrer leurs arcanes secrètes. Un doute en générant un autre, François Follet se demanda si la rupture du fil générationnel ne résultait pas de ce trop grand écart entre sa femme et lui. Le défaut de vocation de Philippe au métier d'encadreur ne dérivait peut-être pas d'une autre cause. François minorait sa propre responsabilité. N'était-il pas le premier depuis tant de générations qui osait bousculer l'ordre établi? Ne nourrissait-il pas des velléités d'aventure? Ne cherchait-il pas à s'affranchir du destin tout tracé qui lui était assigné? Il avait peut-être inconsciemment transmis sa révolte inavouée à son fils, lequel s'autorisait le premier, fort de cet agrément tacite, à briser la chaîne d'un certain déterminisme familial. Quand Philippe avait émis le souhait de faire du cheval, il aurait tout aussi bien pu y surseoir, ou s'y opposer catégoriquement. En d'autres termes, le fils réalisait le fantasme du père, sortir du cadre. Madame Follet revint plus tard dans la soirée sans Philippe. Elle expliqua à son mari qu'ils avaient de nouveau croisé le fameux Gigi, elle avait préféré s'éclipser, elle avait eu le sentiment d'être de trop. Elle était très contrariée, son instinct de femme et de mère avait parlé, ce qu'elle subodorait. Sur la foi des propos tenus par Monsieur Follet se confirmait, Gigi et Philippe étaient unis par un sentiment qui excédait à l'évidence le cours d'une simple amitié. Il lui eût été pénible d'accoler sur cette relation le mot d'amour, mais ce n'était probablement ni plus ni moins, ou ni moins ni plus que cela. Il transpirait de ces deux garçons un parfum ambigu qui chargeait l'air d'effluves licencieux. Nul qui humait l'air ne pouvait se méprendre sur la nature véritable de cette relation. D'ailleurs, la nature de ce lien paraissait admise par tous. On les laissait vivre discrètement leur idylle sans les juger. Cette impression de bienveillance générale atténua les peurs de Madame Follet. Cela ne lui ôtait nullement, en revanche, ses angoisses quant à la pérennité de sa famille, car n'ayant qu'un fils, en qui elle avait de fait placé tous ses espoirs de génération, tout l'édifice qu'elle avait projeté se fissurait. Quand elle eut la révélation brutale qu'elle n'aurait sans doute jamais de petits-enfants, et encore moins d'arrière-petits-enfants, elle fut envahie d'une tristesse indicible. Elle pleurait en son fort intérieur tous ces petits êtres qu'elle chérissait pourtant déjà, qui ne verraient jamais le jour. Il y avait loin quant à une accusation de crime. Sa déception était pourtant de cet ordre. On privait des êtres qui ne demandaient qu'à naître du droit d'accéder à la vie. Il y avait une manière de tuer qui consiste à supprimer les êtres vivants avant terme, ce que toutes les lois condamnent unanimement. Elle se demandait s'il n'en existait pas une deuxième qui consiste à stériliser l'humanité. La seconde méthode n'était à son sens pas moins criminelle. « Je ne serai jamais grand-mère », se répétait-elle à l'envi, sous le choc de l'émotion. Elle en venait à regretter de n'avoir qu'un fils unique. « Mon fils, mon propre fils, la chair de ma chair, le sang de mon sang, voilà qui nous trahit, son père, moi, et toutes les générations qui nous ont précédés. Qu'il ne veuille pas être père, mais qu'il me prive d'être grand-mère. De quel droit y a-t-il seulement réfléchi ? » Elle prit la résolution de lui parler. Il était trop jeune et trop écervelé, tout entier accaparé par le présent, pour envisager les conséquences futures et irréversibles. Elle avait envie de lui dire, de lui crier, « L'homosexualité laisse-la aux gens stériles, l'humanité n'y perd pas. Tu ne sais pas toi-même si tu pourrais avoir des enfants. Et quoi? Tu comptes sacrifier ton potentiel de paternité à ton orientation sexuelle? Penses-tu sérieusement que tes désirs sexuels doivent primer tout le reste? C'est privilégier le sexe sur la sexualité. » Il lui semblait dans cet ordre qu'un homosexuel est comparable à un enfant égoïste qui ne voit que son propre intérêt et qui reste imperméable à tout ce qui ne se rapporte pas directement à lui. Son fils, qu'elle regardait déjà comme un homme accompli, redevenait soudain à ses yeux un enfant, tout au plus un adolescent, à qui elle avait envie de faire la morale, de lui donner des conseils de vie. Elle qui n'avait jamais eu de préjugés sur les homosexuels, qui les eût même défendus au nom du respect de la différence, voilà qu'elle les maudissait soudain, tous et toutes, sans distinction, au nom de leurs parents. Vous êtes égocentrés, vous ne pensez qu'à vous, vous ne vivez que pour vous, par vous, entre vous, vous recherchez la compagnie d'êtres qui vous ressemblent, jusque dans les attributs sexuels, vous taxez quiconque s'émeut de vos pratiques d'homophobe, de sexiste, que sais-je encore, vous prenez le droit à la différence, mais vous ne souffririez pas le contact d'un partenaire de l'autre sexe. On vous dit que c'est un problème de construction psychologique ou une déviance génétique, vous répudiez quiconque cherche à comprendre, vous ne voulez surtout pas qu'on s'interroge de peur, peut-être, qu'on comprenne. Regardez pourtant comme dans le règne animal les contraires s'attirent, car c'est la garantie de la perpétuation de l'espèce. S'ils n'étaient que des êtres comme vous, l'humanité, depuis longtemps, aurait disparu. L'attirance des sexes obéit à la loi des aimants. Deux pôles positifs ou négatifs se repoussent, ne peuvent jamais s'associer. Au contraire, d'un plus et d'un moins qui s'attirent spontanément. Un plus un égale un. Certes, vous pouvez vous accoupler, mais pas ensemble, pas simultanément et de façon si répugnante. Vous n'êtes en mesure d'atteindre votre plaisir que l'un après l'autre. Quand l'un se retire, il dit au second à ton tour. Sauf à singer l'acte qui accourt entre un homme et une femme, ce qui serait pire encore, dans l'ordre de la bestialité, vous ne sauriez affirmer le contraire. Vous voyez bien que le corps est ainsi conçu que seuls l'homme et la femme peuvent s'emboîter ensemble. se synchronisait par les voies prévues à cet effet. Le plaisir n'est que l'aiguillon et le prétexte. La fonction consiste dans la régénération de l'espèce. Et ne venez pas me faire un procès, car si moi-même j'en avais été, je n'aurais pas eu d'enfant, et d'enfant homosexuel. Vous me condamnez, moi, qui ai donné naissance à un tel enfant, mais, en lui donnant naissance, j'ai, en quelque sorte, servi votre cause. N'est-ce pas à moi de vous demander des comptes? C'est votre cause qui a utilisé mon ventre pour prospérer. Madame Follet éprouvait un grand malaise quand elle imaginait son fils. L'idée seule lui était odieuse. Il était cependant trop tard pour l'écarter de son esprit. Le cœur lui levait. Une mère veut toujours conserver de son enfant l'image immaculée de sa conception. Elle maudissait ce Gigi. Si elle ne s'était retenue, elle lui aurait lacéré le visage à coups d'ongles, elle aurait écrit à ses parents, elle aurait retiré Philippe de cette Sodome et Gomorre, lui eût coupé les vivres, elle regrettait jusqu'à l'achat de Champion du Marais. C'était en quelque sorte encourager un vice, récompenser une traîtrise. Un cheval à la retraite en lieu et place d'un petit-fils ou d'une petite-fille. Belle compensation, se dit-elle. Elle imaginait déjà les fêtes de famille, à devoir supporter cet être sirupeux, gommeux, collant comme un pot de miel. Monsieur Follet voyait s'agiter sa femme dans tous les sens. Il la connaissait assez pour mesurer l'importance de la tempête qui était en train de se déchaîner sous son crâne. Il n'était pas sûr cependant de l'origine de ce cataclysme. Il pensa qu'elle en avait contre lui, qu'elle avait percé à jour son manège. Il crut devoir s'expliquer. « Je t'assure, » dit-il timidement, « tu te fais des idées. » Elle parut se réveiller d'un songe. « Quelles idées ? Je ne me fais aucune idée. Tu as voulu me protéger jusqu'ici. Mais je sais ce qu'il en est. Inutile de nier ou de me mentir, va. J'ai tout compris, sitôt que j'ai mis le pied ici. Ne me prends pas pour une idiote. » Sa sentence semblait sans appel. François Follet sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Je t'assure qu'il ne s'est rien passé, encore une fois. Je te dis que tu te fais des idées. » Elle posa sur lui un regard interrogateur. « Car en plus il t'a parlé. » Monsieur Follet se faisait précisément la même réflexion en sens inverse. Philippe n'avait pu tenir sa langue, peut-être par suite d'un concours de circonstances, ce qui d'ailleurs était inévitable à plus ou moins long terme. Ils avaient pu croiser le chemin de Madame Duplessis, celle-ci les avait sans doute apostrophés, s'était informée de lui, avait dû rappeler à Philippe la balade à cheval qu'il s'était promis. Philippe, dont il connaissait la loyauté, devait se sentir mal, d'une part d'avoir été dépassé par les indiscrétions de Madame Duplessis, d'autre part de n'avoir pu le prévenir de ce qu'il en avait été avant le retour de sa mère. Madame Follet insista, rongée par la curiosité, et toute prête à céder au remords de ses pensées précédentes. « Que t'a-t-il dit exactement ?» François lui rétorqua, « Mais je te certifie qu'il ne m'a rien dit. » Madame Follet, ne comprenant pas, il lui avait parlé ou il ne lui avait pas parlé. « De quoi m'aurait-il parlé ?» demanda Monsieur Follet. Madeleine Follet gronda, « Mais de son homosexualité !» François Follet, prenant conscience qu'il faisait fausse route depuis tout à l'heure, poussa un soupir de soulagement, ce que ne manqua pas de remarquer sa femme qui s'en exaspéra plus encore. « De quoi pensais-tu que je parlais ?» Il éluda cette question et recentra son attention sur son sujet initial. « Oh, se contenta-t-il d'annoncer pour tout commentaire. Tu as remarqué, toi aussi, Madame Follet se scandalisa de tant de nonchalance. Si tu le savais, et tu ne t'en étais pas ouvert à moi. Il se chercha des excuses. Philippe est très secret, je n'étais pas sûre. Il m'a bien semblé, quand je les ai vus tous les deux, mais enfin, je ne m'y entends guère dans ces choses. Qui aurait pu prédire notre garçon? D'ailleurs, souviens-toi, l'autre jour à la maison, je t'ai exposé la situation. J'y ai même fait une vague allusion. Madame Follet baissa d'un ton. Oui, tu as raison. Tu me l'aurais annoncé tout de go, je ne t'aurais pas cru. Un souci en chassait un autre. Elle avait noté au passage, enchâssée dans cet échange, que son mari avait craint de se compromettre sur un malentendu. Elle se persuada qu'il détenait un autre secret. Elle devina que si elle l'interrogeait, il se refermerait comme une huître et qu'il lui serait dès lors impossible d'entrouvrir sa coquille. Elle pensa de meilleur aloi de faire mine de rien et de mener son enquête à son insu. Le soir, toute la famille décida d'aller dîner dans un restaurant de la ville. Ils étaient tous les trois autour de la table. « Cela faisait longtemps, » commenta Madame Follet, pour qui ces moments devenaient trop rares. C'était aussi l'occasion de ressouder des liens qui s'étaient peut-être desserrés. Monsieur Follet s'était cru lavé de tout soupçon. Il venait de passer la commande avec un brin de satisfaction à la lecture d'un menu alléchant quand il entendit une voix éclater derrière lui. « Mais c'est notre cavalier émérite. Comment allez-vous? Vous êtes en famille? Je vous dérange. » Monsieur Follet se leva gêné, coincé entre Madame Duplessis et la table. Ils se serrèrent la main avec pompe, rétablissant d'emblée une distance quasi réglementaire aux yeux de Madame Follet. Quoi qu'il lui en coûtât, il fit les présentations entre les deux femmes. Elles se toisèrent d'un regard rival, sans savoir pourquoi, comme si passé et avenir se disputaient le présent. Chacune semblait dire à l'autre « Il est à moi ». La première se targuait de la longévité de son couple, qui semblait lui conférer sur lui des droits intangibles et imprescriptibles, et l'autre de surenchérir dans un dialogue muet. « Avec vous, il a fait son temps. Non, mais regardez votre triste mine. Il est en train de perdre à vos côtés ces dernières années les plus belles. Retournez plutôt à votre boutique et laissez-le respirer. » Madame Duplessis était flanquée de son amie Madame Minaudran qui vint les rejoindre. Il y eut de nouvelles présentations auxquelles Philippe crut bon de se mêler. Peut-être souhaitait-il faire rempart de son corps dans la lutte intestine que se livraient les deux premières. Soudain résonna la phrase que Monsieur Follet redoutait par-dessus tout. « À quand la balade à cheval que vous nous avez promise ?» Monsieur Follet était abasourdi, il se sentait trahi, c'était leur secret. Ne pouvait-elle le comprendre? Sa déception fut immense. Madame Follet, piquée au vif par des éperons invisibles et sur le point de se cabrer, interrogea sur un ton stupide, comme s'il s'agissait d'une farce. « François, un cheval !» Monsieur Follet eut aimé en cet instant avoir la taille d'une souris, de façon à pouvoir s'enfuir dans un petit trou. « Ma foi, répartit Madame Duplessis, qui n'y voyait point malice, je ne doute que votre époux soit aussi bon cavalier que son fils. Le plus jeune apprend souvent de son aîné. » Madame Follet, soit candeur, soit conviction que son mari n'avait pu faillir dans sa droiture, pensa qu'il était en butte à une moquerie intolérable et voulut prendre sa défense. « Madame, je ne vous permets pas de vous gausser ainsi de mon mari. » Madame Duplessis et Madame Minaudran pensèrent préférable de ne pas insister pour éviter une confrontation aussi inutile qu'injustifiée. Elles reculèrent en esquissant un sourire hypocrite. Les deux femmes, tandis qu'elles battaient en retraite, se susurrèrent à l'oreille. Madame Duplessis, deux points. En voilà une qui, ma foi, monte vite sur ses grands chevaux. Madame Minaudran, deux points. Tu veux dire qu'elle le mène à la cravache? Le pauvre, compatit Madame Duplessis en manière de conclusion. Il ne doit pas être à la fête tous les jours. Monsieur Follet se sentait très seul à sa table. Sa femme était devenue rouge pivoine et ne décolérait pas. Il se demanda qui avait eu la fâcheuse idée de sortir au restaurant, mais il ne pouvait en imputer la faute qu'à lui-même. Le serveur arriva, point nommé, pour passer la commande. Les minutes d'attente furent longues. Philippe feignait de ne pas remarquer le malaise qui pesait autour de la table. Sa mère acquiesçait à ses paroles sans les écouter, tandis que son père tentait depuis tout à l'heure de défroisser la nappe de la pointe de son couteau. François Follet souffrait d'être accusé d'une faute qu'il n'avait pas commise. Il eût d'ailleurs souffert bien davantage de s'être compromis. Et préférait encore des deux, essuyer une injustice qu'un procès infamant. Il était le genre d'homme, s'il faisait une bêtise, à se dénoncer spontanément. Quand le premier plat fut servi, chacun rentra la tête dans son col. Le dîner se déroula sans nouveau heurts. Philippe redevint l'objet de toutes les attentions. N'était-on pas là pour lui, ce fils chéri, si habitué à être le centre du monde, se contentait de répondre aux questions qu'on lui posait, mais n'en retournait aucune. Non qu'il ne s'intéressât pas à ses parents, mais il redoutait qu'un simple mot, une allusion même brève, puisse ranimer les braises du feu qui couvait. Il songea que c'eût été là l'occasion de parler des liens qui l'unissaient à Jean Jérôme. Philippe avait-il conscience que ses parents l'avaient deviné? Un sentiment de gêne l'envahit. Il lui semblait que son homosexualité était peinte sur son visage. Madeleine Follet eut alors cette sentence que chacun prit pour lui, comme si elle lui était exclusivement destinée. Il faut faire attention. Quoi de plus fragile qu'une famille? Une petite trahison peut engendrer des conséquences irréversibles que chacun pourrait regretter ensuite. Mais il serait alors trop tard, le mal serait fait. Ces paroles, aux accents prophétiques, eurent l'heure de créer entre eux une nouvelle tension à la fin du repas. Afin de dissiper cette atmosphère pesante, Monsieur Follet prit le parti, un peu précipité, avant même les cafés, de demander l'addition. En partant, ils passèrent non loin de mesdames Duplessis et Minaudran. Cependant, comme par un accord tacite, les protagonistes des deux tables n'échangèrent qu'un regard furtif. Monsieur et madame Follet rentrèrent le lendemain à leur domicile. François trouva refuge dans son atelier à la douceur ouatée au milieu des copeaux et des senteurs de bois. Il se disait que tel Icare, il lui fallait se tenir à l'écart du soleil, bien à l'abri dans la pénombre de son atelier, s'il ne voulait pas se brûler les ailes. Monsieur Follet se remit sérieusement au travail, il avait pris beaucoup de retard et plusieurs clients avaient déjà rappelé. Une semaine s'était écoulée quand ils reçurent la visite des grognards. Ceux-ci avaient acquis lors d'une vente aux enchères un ancien tableau de maître. Il fut question du dernier cadre, si original, que M. Follet leur avait confectionné sur mesure. Les grognards étaient dithyrambiques, leur tableau faisait sensation auprès de tous leurs visiteurs. Ils l'avaient finalement changé de place pour le mettre bien en évidence dans le salon. On ne pouvait ainsi le manquer. M. Follet avait l'espoir que les grognards, grands pourvoyeurs de commandes, allaient renouveler une offre aussi inédite qui l'obligerait à se surpasser. De ce point de vue, il fut déçu. Il s'agissait d'une peinture française du XVIIIe siècle déjà encadrée. Une fois n'est pas coutume,
Les grognards n'entendaient nullement déloger le tableau de son écrin, tapissé à la feuille d'or, qui était plus précieux encore que la toile qu'il auréolait. En certains endroits, l'or s'était échevelé et tombé en fin lambeaux. Un travail long et fastidieux de restauration d'une grande minutie s'annonçait tout à fait dans les cordes de M. Follet, qui maîtrisait la technique du coussin à base de colle de peau de lapin, de l'assiette et de la dorure. L'attention de M. Follet fut attirée dans un second temps par la scène que figurait le tableau. Une monture se cabrait et mettait à terre son cavalier. Monsieur Follet ne manqua pas d'y voir une allusion à ses propres velléités équestres, comme un clin d'œil que lui aurait adressé le peintre à distance de plusieurs siècles. Décidément, Philippe n'avait-il pas de son propre aveu eu la révélation de sa vocation à la vue de la collection des huiles anglaises qui tapissaient les murs de la maison? Monsieur Follet s'était plusieurs fois surpris à penser que si sa collection avait eu pour sujet des danseurs étoiles, le cours de l'histoire en eût peut-être été modifié. Il haussa les épaules et maugréa comme se parlant à lui-même. Enfin, pas tant que cela. Il compléta sa pensée comme pour mieux balayer les regrets qu'il aurait pu avoir. Il se serait trouvé partout un gigi, surtout à l'opéra. Qui sait quelle part tiennent dans la construction d'une personnalité les influences de son environnement? Tout pendant la restauration, François Follet jetait parfois les yeux sur le tableau des grognards, qu'il avait désolidarisé de son cadre pour les nécessités de son travail. Tantôt il interprétait cette peinture comme une provocation. Voilà quel piètre cavalier tu fais! Tantôt comme une invitation à persévérer et à prendre le mors aux dents. Il n'était pas homme à renoncer, même s'il éprouvait un curieux sentiment de culpabilité chaque fois qu'il prenait un peu de liberté avec ses dogmes. Il avait pris l'épisode du restaurant pour un sérieux avertissement. Il savait qu'il ne lui serait plus aussi aisé de retourner à Saumur sans essuyer les soupçons de sa femme. Or, un matin, et qu'il prenait son service comme il y était de nouveau accoutumé, Madame Follet l'apostropha. Tu ne vas plus voir ton fils? Il pensa qu'elle voulait l'éprouver, à moins que ce ne fût une doléance de Philippe. Il bafouilla, il prétexta que c'était l'automne, la saison était moins propice. Pourquoi donc avoir investi dans un cheval? Tu n'as pas même l'ambition de le monter un jour? C'est donner un piètre crédit aux leçons que t'as données. C'est accorder un piètre crédit aux leçons que t'a données Philippe. Cette perspective, en forme de défi, ranima sa flamme, trop vite mouchée par les rebuffades de son épouse, dont il semblait, avec le recul, s'être beaucoup exagéré l'importance. Oui, il irait bientôt, dès que possible, la semaine prochaine. Il s'organisa en conséquence, toujours avec la collusion de Madame Follet, d'ailleurs, sans laquelle il n'aurait pu s'absenter de la boutique. 4. Ancel. À Saumur, François Follet était un autre homme. Il ne s'expliquait pas ce phénomène. Aurait-il aperçu son double, tout droit sorti de sa boutique, le teint glabre, les yeux caves, les jambes flageolantes? Il l'eût snobé superbement, exécrant tout ce qu'il représentait, un artisan étriqué de province, sans panache, qui se satisfaisait de sa petite réussite. Philippe avait repris les cours là où il s'était arrêté, c'est-à-dire à mi-chemin entre le trot et le galop, entre audace et savoir-faire. François Follet constata qu'il n'avait rien perdu de ses acquis. Il avait le dos un peu raide, ce qui était normal, mais 2 jours d'entraînement suffirent à l'assouplir. Il était las de tourner en rond dans son manège. Il avait une envie folle de vagabonder librement dans la nature. Philippe lui en fit la promesse. François s'appliqua d'autant mieux à la théorie qu'il savait proche l'heure de l'école buissonnière. Et de fait, Philippe jugea son père, dès le jour suivant, paré pour l'aventure. Il lui en réserva la surprise. François avait des joies d'enfant. Il éprouva le besoin d'appeler Madame Follet pour lui faire part de ses progrès. En mère attentive, celle-ci le félicita. Sous ce simulacre de compliment, elle louait plutôt la bonne influence de Philippe sur son père. Du moins, voulait-elle croire que M. Follet ne s'écartait pas du rang. Philippe s'attribua d'autorité champion du marais, privilège que ne lui contesta pas M. Follet. C'était déjà un grand pas que de monter une jument de 11 ans, calme, en toutes circonstances. Par ailleurs, champion du marais, on pouvait se montrer un brin cabotin lorsqu'il partageait ses virées avec une dame à son goût. Il humait bruyamment par les naseaux, gonflait le poitrail à outrance. Beefsteak ne quittait pas son acolyte d'un sabot. Il avait flairé la manœuvre, qui était du reste toujours la même. Il ne parvenait pas à se résigner à ce traitement discriminatoire, incapable de faire la part des choses. Il marqua sa désapprobation par des ruades tempétueuses. Philippe lui savait un point faible néanmoins, commun à tous les membres de sa race. Aussi ne venait-il jamais au pré sans se munir d'un quignon de pain, d'une carotte ou d'une pomme. Beefsteak balançait. Il devenait clair, au vu de son museau qui s'allongeait démesurément entre les barreaux de la clôture, que se livrait en lui une lutte acharnée et douloureuse, mais peut-être parce qu'il savait toute protestation vaine à long terme, et quoiqu'il pût sans risque s'appliquer un jeûne au regard de la rondeur balourde de ses formes, son ventre crimait toujours. Philippe jeta son appât à bonne distance, ce qui eut pour effet immanquable de distraire l'incurable gourmand. Il devint alors aisé d'extraire champion du marais de son pré, sans craindre une embardée du poney, lequel n'en marmonnait pas moins entre ses dents, en même temps qu'il concassait son pain. On aurait su dire lequel, en vérité, de la protestation jalouse ou du ravissement gourmand, le disputait à l'autre. Père et fille se gambadèrent bientôt, ivres de liberté, cheveux au vent. C'était une sensation nouvelle pour M. Follet que d'avancer sans se retourner au milieu des paysages, subissant tous les accidents du parcours au lieu de tourner en rond dans un manège au sol plan sur un sable qui amortit la foulée de sa monture. François Follet, engoncé dans une tenue de circonstance dans laquelle il avait fait des frais, une veste en velours, sur un pull à col roulé pour parer à la fraîcheur du matin, et de magnifiques bottes en cuir lustré, François Follet donc affichait des airs de notable en goguette. Philippe tirait sur le mors de champion du marais, qui manifestait un peu trop d'impulsivité. Le cheval semblait contrarié de ce qu'on lui offrait un champ infini et de ce qu'on ne l'en laissait pas jouir. Après quelques minutes, durant lesquelles Philippe épiait son père à la dérobée, il lâcha un peu la bride à champion du marais, qui ne se fit pas prier. La tentation cependant était si forte de partir au galop qu'il fallait encore à Philippe le contenir. François Follet avait une allure souple. Vraiment, nul n'aurait pu dire qu'il n'était encore qu'un débutant, fort de cette aisance affichée. Monsieur Follet n'entendait pas s'arrêter en si bon chemin. Philippe tenta de le raisonner. François Follet se sentait si facile, en telle confiance redoublée, qu'il ne concevait pas de s'en retourner, sans s'être au moins essayé au franc galop. Bien campé sur ses jambes, il qu'a légèrement la bride sur l'encolure du cheval, à ce signal, sa jument partie, à mesure que celle-ci prenait de la vitesse, François Follet relevait son séant à la façon des jockeys sur un champ de course. Philippe laissa à Champion du Marais un peu de mou, juste le temps de se hisser à la hauteur de son binôme. Toutefois, il dut, à un certain palier, une nouvelle fois, le retenir, car sa vitesse de pointe était sans comparaison avec celle de sa partenaire aux grandes dames de l'étalon. Pour la première fois, Philippe songea qu'il avait peut-être hérité sa vocation de son père, quoique celui-ci en ait eu la révélation tardive. Il retourna le raisonnement et se demanda si lui-même n'était pas doué pour réaliser des cadres. On peut être doué pour plusieurs choses à la fois, se dit-il. Tout est question de priorité. Toutefois, il en doutait, tant son impatience semblait inconciliable avec le travail de la matière. Lui qui était épris de grand air, le confinement d'un atelier lui était odieux, passe quelques heures, mais toute une vie, il laissait ce destin à son père et n'en voulait pas pour lui. Le grand écart dont était capable son père impressionnait Philippe. Il lui semblait découvrir ce dernier mieux ces derniers mois que dans toute la première partie de vie qu'il avait passée pourtant quotidiennement à ses côtés. Il lui avait fallu accomplir tout ce chemin pour connaître ce père qu'il ne voyait plus, qu'il n'avait même jamais vu, parce que sans doute il ne s'étonnait plus de le voir, pour l'avoir vu toujours à la même place, toujours dans la même posture, comme si celui-ci avait toujours été et devait toujours être ce qu'il était, presque un meuble. Ce n'était que lorsqu'il s'était écarté de lui que celui-ci avait revêtu une existence autonome, était devenu un être à part entière, doué de raison et de sentiments, s'était incarné et qu'il s'était réveillé à sa réalité, le regardait avec des yeux neufs, aussi bien que s'il le voyait pour la première fois. Quel choc! Il découvrait un autre homme, presque un étranger. Il songea à sa grande honte que son père s'intéressait probablement davantage à lui que le contraire. Philippe s'accusait d'être un ingrat. Pour atténuer la rigueur de ce jugement, il mit à son crédit le temps qu'il consacrait à enseigner à son père les rudiments de sa passion. Mais n'était-ce pas encore une fois servir son propre plaisir égoïste? Il se demanda si un parent avait du mérite à s'intéresser à son enfant, dans la mesure où celui-ci est son prolongement. Il n'aurait su répondre à cette question, il ne pouvait pas même consulter ses propres entrailles, puisqu'il ne s'était jamais senti la fibre paternelle. Peut-être le peu d'intérêt qu'il témoignait envers son père allait de concert avec sa maigre vocation à la paternité, son orientation sexuelle, par essence, le prédisposait peu à la perpétuation de l'espèce. Il n'était pas de ceux qui jugeaient révoltante cette injustice de la nature. Philippe était d'ores et déjà convaincu, quoiqu'il n'eût guère vécu, qu'on est, NAI accent circonflexe T, qu'on est père ou fils à des degrés variables. Ceux qui sont nés pères ont des enfances courtes, jetant déjà un pont vers l'avenir, lesté de responsabilité. Ceux qui sont nés fils s'accrochent à leur chimère, ne cessent de dire quand je serai grand, au lieu de le devenir, font durer ce lien de dépendance qui les rattache à leurs parents. Père et fils galopaient côte à côte quand ils entendirent d'autres chevaux au galop derrière eux. Puis une voix clama dans leur direction. Du nerf, que diable! Monsieur Follet, s'il avait acquis de l'aisance quand il se tenait droit sur son cheval face au vent, était en revanche fort incommodé pour contorsionner le torse, tant il craignait de chasser sur le côté. Or, il voulait éviter de se tourner en ridicule précisément devant celle dont il reconnaissait la voix. Il fallait que sa monture tournât avec lui ou l'inverse. Philippe, qui n'était pas soumis aux mêmes contraintes, s'exclama, levant dans l'esprit de son père tout soupçon s'il en était seulement besoin. Madame Duplessis, comment allez-vous? Il salua également sa fille qui la suivait. Je vais fort bien, ma foi. Je vous présente Vanessa. Spontanément, Philippe leur proposa de se joindre à eux. Madame Duplessis accepta volontiers, d'autant plus qu'elle était déjà à sa hauteur. Philippe, qui était d'humeur taquine, lui demanda: Vous avez perdu Madame Minaudran en route? François, galvanisé par cette rencontre opportune, pensait quant à lui: Charlotte, vous avez perdu votre mari? La question ne franchit pas le barrage de ses lèvres. Monsieur Follet ne pouvait faire deux choses à la fois. Il lui fallait choisir, ou bien chevaucher, ou bien parler. Il proposa de faire une pause, qui était la bienvenue. Il réussit à freiner sa jument, sans que celle-ci ne se cabre. Il descendit de sa monture le plus élégamment qu'il lui fut possible, très fier de ses bottes lustrées. Au regard que lui jeta à cet instant Madame Duplessis, il eut le sentiment qu'elle devinait ses pensées et qu'elle lui répondait aussi bien que si elle lui avait déclaré tout de go: Pensez-vous sérieusement que je serais venu au-devant de vous si j'avais été flanqué de mon époux? Un muet dialogue s'engagea entre eux qui ménageaient leurs enfants. Vous savez, mon mari ne s'intéresse pas à ce que je fais. Il lui suffit de savoir que je suis avec ma fille, pourvu que je ne le dérange pas dans ses affaires, et tout va pour le mieux. Avec ma femme, c'est tout différent. Elle veut toujours savoir où je suis, ce que je fais et avec qui. Et en ce moment, elle n'est pas inquiète? Pourquoi? Le devrait-elle? Elle me sait aux côtés de Philippe. Vous aimez toujours votre femme? Et vous, vous aimez toujours votre mari? Ils rougirent ensemble, confus, et baissèrent les yeux. Ils marchaient l'un à côté de l'autre, tenant leur cheval par la bride, au son des fers martelant le sol. François Follet n'était pas ce qu'on pourrait appeler un bel homme. Il n'avait pas non plus spécialement d'allure. En vérité, il n'était ni beau, ni laid, ni grand, ni petit. Il était entre deux, ressemblait à quantité d'hommes de son âge et passait volontiers inaperçu. Il souffrait d'une calvitie précoce qui l'avait mis longtemps au supplice, puis, le temps faisant son œuvre, toute sa physionomie semblait s'être adaptée à cette particularité physique. Son crâne s'était adouci, ses traits s'étaient arrondis. S'il n'était pas beau, en revanche, il ne manquait pas de charme. Son visage exprimait une grande bienveillance qui pouvait être rassurante. En dépit de ses réserves dont il était conscient, le regard de Madame Duplessis lui donnait confiance. Il sentait qu'il pouvait plaire et en était flatté. Bien qu'il fût droitier, François Follet tâchait de garder contenance. Il eût été plus à l'aise de tenir la bride de l'autre côté. Heureusement, sa monture suivait comme un mouton, en sorte qu'il donnait l'apparence de l'assujettir de sa main contrariée. Ainsi blotti entre ces deux remparts mobiles, Monsieur Follet et Madame Duplessis se sentaient cachés du monde comme invisibles. Ils n'avaient nullement le sentiment de se compromettre. Philippe et Vanessa vaquaient à leurs songes respectifs tout en s'ignorant. Quelques pas en arrière, ils ne pouvaient pas saisir le sens des paroles échangées entre leurs deux aînés, car ceux-ci devisaient soudain plus bas. Ils surprirent quelques rougeurs au front de Monsieur Follet et aux joues de Madame Duplessis. Elle déclara qu'elle avait très chaud, le soleil frappait, certes, mais les ardeurs de ses rayons étaient tempérées par une brise bienvenue qui caressait la peau et lissait la crinière des chevaux. Au bout d'un moment, se voyant privée de l'exclusivité de sa mère, la fille de Madame Duplessis trépigna d'impatience. Le remarquant, Madame Duplessis fut rappelée à son devoir maternel. Ancelle! s'écria-t-elle. Elle était déjà juchée sur la croupe de son cheval. François Follet eut plus de mal. Sa monture lui semblait soudain très haute. Surtout, Il manquait de souplesse. Faute d'élan, son étrier se déroba, sous le ventre rebondi de l'animal, qui se déroba. Madame Duplessis partit d'un rire peu charitable à son endroit, et, sans coup férir, se lança au grand galop. Philippe, gardien de son père, l'attendit et l'encouragea. François lorgna alors du côté de Champion du Marais, qui se tenait roide, stoïque. Dans un accès d'audace et sans doute de folie, il demanda à Philippe de lui céder sa bride. Étant un instant sans comprendre, le jeune Follet s'exécuta. Quand il comprit, il était déjà trop tard. François Follet avait glissé son pied dans l'étrier, et le pied raffermi par son premier échec, et tirant de toutes ses forces par les poignets, il réussit à se hisser sur l'encolure du géant. C'était la première fois que M. Follet voyait le monde de si haut. Il fut pris pendant quelques secondes de vertige. La bête, qui sentait probablement à ses réactions qu'elle ne portait pas son cavalier habituel, recula, alors même que M. Follet lui commandait d'avancer. Dépossédé de sa monture, Philippe monta la jument abandonnée par son père. À force de sommation, M. Follet finit par faire entendre raison à sa monture. Il constata une forme d'inertie. Champion du Marais fut long à se mettre en branle, mais une fois lancé, il fut grisé par sa puissance phénoménale. Il semblait lui-même peser à peine plus qu'une plume. Il devait s'arrimer fortement pour ne pas être emporté par le vent. Il y avait autant entre sa première monture et cette statue équestre en mouvement qu'entre toute proportion gardée, une berline familiale et une voiture de sport. Il s'était mis en tête à l'évidence de rattraper Madame Duplessis et sa fille, il fanfaronnait. Philippe joua des étriers, mais tout bon cavalier qu'il était, il était bridé par sa monture. Champion du Marais semblait, quant à lui, avoir oublié qu'il avait un maître. Il filait droit, naseau relevé, crinière au vent. Il se rappelait sans doute le palmarès de ses victoires lorsqu'il était libre de donner sa pleine mesure sur un champ de course. Madame Duplessis avait eu le temps de prendre plusieurs centaines de mètres d'avance, mais la vélocité de Champion du Marais fit fondre rapidement la distance qui les séparait. Monsieur Follet arrivait à sa hauteur, il jubilait par avance de l'effet qu'il allait produire. Surprise, Madame Duplessis le fut. Tellement qu'elle agita sa cravache sans le vouloir sous le nez de l'étalon, qui fit une embardée. Champion du Marais prit peur. Il interrompit brusquement sa course folle et se cabra en poussant un hennissement qui, selon la légende, fut entendu depuis l'enceinte du cadre noir. Monsieur Follet fut projeté en arrière. Son pied droit fut retenu prisonnier de l'étrier. Non seulement sa cheville vrilla, lui causant une douleur atroce, mais le cheval le piétina de tout le poids de son corps massif. Il entendit ses os craquer sous les pieds du géant. Philippe arriva à temps pour attraper la bride de Champion du Marais. Il le raisonnait, il dégagea non sans mal le pied de son père du piège de l'étrier. Libéré, François Follet ne bougea pas. On craignit un moment qu'il ne fût évanoui ou même mort. Il respirait cependant. Le plus étrange est qu'il ne râlait pas. On ne savait si on devait s'en réjouir ou si ce n'était pas plus inquiétant encore. Du moins, il ne semblait pas souffrir. Philippe voulut relever son père. Madame Duplessis, qui avait quelques notions de secourisme, s'interposa et appela de l'aide. Après de longues minutes, François Follet fut placé dans une coque rigide et transporté à l'hôpital. Les premiers résultats furent sans appel, sous réserve d'examens complémentaires permettant d'affiner le diagnostic. Le bas de la colonne était brisé. On ne pouvait dire si la cause était unique ou conjuguée, de la chute ou de l'impact des sabots. Quoi qu'il en fût, la conséquence était égale. François Follet ne remarcherait plus. 5. Cadre moqueur. Au sortir d'une longue hospitalisation, François Follet dut suivre plusieurs mois de rééducation qui lui permirent de restaurer à minima l'usage de quelques fonctions primaires et assez de force dans les bras pour s'extraire seul de son fauteuil. Il reprit sa place auprès de Madame Follet. Il lui fallut adapter le logement et l'atelier de façon à ce qu'ils puissent transhumer facilement de l'un à l'autre. D'un certain point de vue, Madeleine avait elle-même beaucoup perdu en termes d'autonomie. C'était à elle de conduire partout son mari, de le doucher, de l'accompagner à la selle, de découper des bouchées qu'elle portait à sa bouche quand il ne pouvait les premiers temps manier seul son couteau et sa fourchette. Elle était devenue son esclave, on l'entendait parfois maugréer. Voilà ce que c'est que de vouloir jouer les jolis cœurs. D'autres fois, voilà ce qui arrive quand on fait le fou, monsieur Follet. Ça voulait galoper, et bien maintenant ça roule. Madame Follet n'osa jamais cracher fondamentalement à la face de son mari toute sa colère. Il était déjà assez puni d'avoir cherché à jouir trop impunément de la vie. En réalité, son corps était devenu son cadre, contrit à l'extrême, réduit à peau de chagrin. Seul, lui redonnait le sentiment d'être de chair, certains effleurements inopinés de sa femme ou des infirmières. Ces simples chatouilles provoquaient en lui des déflagrations dont le retentissement intérieur était presque équivalent à un orgasme. Il jouissait littéralement de ces sensations délicieuses, les espérait, les guettait, se mettait en situation de les recueillir. Il fallait qu'on le frôlât, ni trop ni trop peu, afin de déclencher en lui ces ressentis obscènes qui trompaient son engourdissement habituel. C'était un paradoxe. La boutique ne désemplissait pas. On venait voir l'encadreur en fauteuil. Il était presque devenu une attraction, un animal en cage. Enfin, même la porte ouverte, il y avait peu de chances qu'il s'échappe. On faisait mine de s'apitoyer sur son sort. En réalité, mû par une curiosité malsaine, on venait calculer les risques. Voilà à quoi on s'exposait quand on s'imaginait de changer de destin. Toute la question était de savoir si soi-même on était prêt à sauter le pas. Monsieur Follet, du moins, avait osé. On n'aurait jamais imaginé tant de courage et d'audace dans cet homme rangé qui ne payait pas de mine. Cela forçait le respect. Ce fut un autre paradoxe qui allait peut-être de pair avec le premier. La période la plus faste de Monsieur Follet. Il produisait presque un cadre par jour. Il n'y avait pas d'envolée, aucune audace, il se contentait d'être ce qu'on lui demandait, ce pourquoi il était fait, un bon artisan besogneux, précis, méticuleux. Il n'avait d'ailleurs guère de mérite, il n'avait que cela à faire. Il se soumettait à son sort sans rechigner, conscient tout le premier qu'il avait dérapé, il lui suffisait de savoir que Philippe fut un bon cavalier. Il se résigna doublement. Il n'aurait pas de petits-enfants. Une part de lui se disait qu'il eût été un drôle de grand-père. Une autre part, qu'il les eût regardés jouer, grandir et courir, comme lui-même ne pouvait plus le faire. Ils eussent été ses jambes. Il se fût égayé de leur rire. Il n'avait jamais été très loquace. Pour le coup, il ne parlait quasiment plus. Il pensait quelquefois à Madame Duplessis et à ce qu'aurait pu être sa vie, s'il en avait secoué le joug quand il en était temps, et il se demandait aussitôt s'il en aurait été plus heureux. Il était tenté d'éprouver des remords. À quoi lui avaient servi ses jambes jusqu'ici, puisqu'il ne s'était jamais vraiment autorisé à en user, sinon pour aller de son atelier à la boutique, et de la boutique
à son logement. Au moins, il avait permis que Philippe vive sa vie à lui, assume ce qu'il était, fasse ses propres choix. C'était une consolation. Madeleine avait mis au point une expression peu aimable, mais qui traduisait assez bien son ressenti. Elle ne parlait plus de son mari qu'en ces termes quasi posthumes. Feu Monsieur Follet. Comme s'il appartenait au passé, comme s'il était déjà mort d'ailleurs, elle ne manquait pas de s'en expliquer à qui posait sur elle des yeux interrogateurs ou interloqués. Ça ou mort, c'est pareil. À qui se mêlait de la défier, elle l'apostrophait sur un ton peu accore. Osez me dire le contraire, ou soit, je vous donne volontiers ma place. L'expression connut un tel succès qu'elle fut reprise à l'envi, aussi bien que si on lui donnait du maître ou du docteur. Elle sonnait comme un titre de gloire presque ronflant à l'égard d'une légion d'honneur affichée à sa boutonnière. Engoncé tout le jour dans son fauteuil étroit qui le retenait prisonnier comme un col trop serré, François Follet roulait d'une pièce à l'autre en sourdine, la tête recourbée, le corps ployant sous la fatalité. Il ressemblait à un Don Quichotte vaincu. Feu Monsieur Follet n'avait pas perdu son humour. Il s'amusait en secret de ce sobriquet dont on l'avait affublé. Voilà bien un nom qui tranchait avec celui que trop longtemps il avait été. Un homme sans histoire. Seul son fils, quand il revenait à la maison, le gratifiait d'un immuable papa. Le jeune homme portait secrètement en lui le poids de la culpabilité. Jamais, cependant, il n'en fut question entre eux. Pour le reste, il le savait, il pouvait parler de tout, y compris de Gigi, avec lequel Philippe entretenait une relation tumultueuse. Il savait qu'il était inutile d'évoquer cette question avec sa mère, qui lui faisait déjà grief de n'avoir jamais ramené de fille à la maison. Du moins, il n'enfreignit pas l'interdit. Gigi ne franchit pas la porte de ses parents. Était-ce les apparences? Un effet du repos forcé qui l'exhortait à la méditation? Une vocation qui trouvait enfin l'occasion de s'exprimer? Ou tout simplement la sagesse des ans et l'expérience dont il récoltait la somme? François Follet coucha par écrit plusieurs de ses réflexions. Tout a la propriété d'être encadrable. Seul peut-être l'univers pourrait ne l'être pas, puisqu'il est infini, et de surcroît, au dire des savants, en expansion perpétuelle. D'ailleurs, on se demande comment le monde peut être à la fois infini, et donc un tout dans le tout et en expansion. Les deux semblent antinomiques. Par ailleurs, le monde lui-même ne saurait flotter dans du vide. Il y a donc nécessairement un cadre, même à l'univers. Et il faut que ce cadre contenant s'agrandisse au fur et à mesure et en proportion, ou se déforme. Le cercueil est un cadre. Le cadre des cadres, pourrait-on dire. Sans doute pensait-il que son fauteuil était une sorte de cercueil sur roue. Quand il ne roulerait plus, c'est qu'il serait mort. Les femmes qui ont la coupe au carré ont besoin de cadres. Pas un cheveu ne doit dépasser, avec ou sans frange. Ce sont elles qui décident. Dites comme elles et elles vous adoreront. Contrariez-les et elles vous fustigeront. Cette sentence semblait avoir été inspirée par Charlotte Duplessis. Quant à Madame Follet, elle avait changé plusieurs fois de coiffure dans sa vie. Elle avait même eu sa période au carré, vers la quarantaine. Aujourd'hui, elle portait les cheveux courts, ce qui était une autre forme de cadre. De brun, elle était graduellement passée au gris-blanc, puis depuis quelque temps au blanc-gris, sans que sa personnalité n'en soit fondamentalement modifiée. Elle avait toujours refusé de se faire des couleurs, ce qui dénotait chez elle l'acceptation de son âge, une certaine adaptabilité au glissement de la vie. Quant à Madame Duplessis, M. Follet ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Il ne la connaissait pas assez pour vérifier sur elle sa théorie du carré. Le cadre, je suis née dedans en quelque sorte. En dehors, je suis exposée à tous les dangers. L'homme, certes, est vulnérable, mais il me semble que sorti de mon cadre si protecteur, je suis plus vulnérable encore qu'un autre. Les grognards, qui ignoraient l'accident de M. Follet, se présentèrent un après-midi. M. et Mme Grognard furent accueillis par Mme Follet. Celle-ci héla son mari depuis la boutique. Ils furent surpris de voir arriver M. Follet dans un fauteuil. Ils conservèrent un silence gêné les premiers instants, puis, quand ils voulurent lui montrer le tableau qu'ils avaient apporté, qui était très lourd, ils eurent l'air de s'excuser. Nous ne savions pas. Comme pour tromper leur malaise, ils expliquèrent. Nous venons de découvrir cet artiste, Moreau. Il est installé depuis quelques années dans la région. Vous le connaissez? Monsieur et Madame Follet firent signe que non. Ceci s'expliquait. Le peintre fabriquait lui-même ses cadres, des cadres dits américains. Il livrait ainsi un produit fini, prêt à être cloué au mur. En l'espèce, le tableau avait des dimensions trop conséquentes pour que l'artiste envisage de lui associer un écrin. Pourriez-vous imaginer un cadre aussi inédit que le premier qui convienne à cette œuvre? Il faisait évidemment référence à sa prouesse passée. Je vais réfléchir, je vous rappellerai, leur dit M. Follet, préférant s'accorder du temps. Les grognards se retirèrent, sans certitude, convaincus cependant que l'artisan saurait trouver la meilleure solution si du moins il n'était diminué que physiquement. Ils n'osèrent poser aucune question sur le malheur qui lui était arrivé. François Follet contempla longtemps le tableau des grognards. La toile figurait un couple de personnages en train de pique-niquer dans un champ de coquelicots et s'enlaçant. Mais ce qui faisait la particularité de ce tableau était la superposition des deux styles abstraits et figuratifs. D'ordinaire, c'était l'un ou l'autre. Lui avait l'audace d'accoler les deux. Le contraste était saisissant et en faisait une sorte de remake pastoral du déjeuner sur l'herbe. Le fond bucolique et champêtre était, du point de vue de François Follet, très réussi. En revanche, il éprouvait toujours des difficultés à appréhender l'art abstrait. La tête des deux personnages était symbolisée par un rond, relié au corps par un simple trait. Un jeu d'ombre et de lumière structurait le visage. Tous les accessoires que le couple avait apportés pour le pique-nique, assiette, couvert, panier, jusqu'à un transistor, étaient épurés à l'extrême, comme suspendu dans les airs. Un oiseau s'était invité sur la anse du panier. L'artiste avait le pinceau concis, expéditif, presque avare dans les formes, mais généreux en matière. Son style semblait procéder d'une fulgurance. Les couleurs de la scène du déjeuner sur fond de coquelicot obéissaient à cette même économie de moyens. L'artiste n'avait disposé sur sa palette que du blanc et du noir, ce qui lui permettait d'alterner le blanc cassé et tous les tons de gris. Il se dégageait du couple une impression fantomatique. L'homme et la femme semblaient flotter de façon presque irréelle sur la toile. Ce sentiment était encore accentué par le fait qu'il s'était installé sur un tapis persan sans réussir à s'ancrer tout à fait dans ce décor trop réaliste pour leurs ébats vaporeux. Le concept de la superposition des styles tenait soit de la mascarade, soit du génie. La frontière entre les deux est souvent mince. Une nouvelle fois, feu M. Follet ressentit le besoin de recueillir l'avis de sa femme. « Je trouve l'œuvre plutôt réussie, » lui répondit-elle. Elle présente de belles formes, évoque l'harmonie. Il fallut à M. Follet plusieurs jours de contemplation stupide pour qu'il commence à s'imprégner du tableau. Il enviait ceux qui, d'un coup d'œil, sont capables de distinguer tout l'attrait d'une œuvre, d'en capter l'essence intime, comme d'autres ont l'art de voir les avantages et les inconvénients de chaque situation. François Follet se sentait parfois un peu abruti. Il se dédouanait de ses carences par l'excuse un peu facile qu'il n'avait pas fait d'études. On ne lui avait pas donné toutes ses chances. 2 semaines passèrent. Il aurait bien habillé cette toile d'un cadre classique, mais il connaissait les grognards et leurs prétentions ridicules à l'originalité. L'idée lui fut enfin donnée par le tableau lui-même, ce qui lui faisait dire que les œuvres ont une âme. Son idée était si originale que nul peut-être avant lui n'y avait songé. Il imaginait un cadre partiel, un mirage de cadre, un cadre commencé mais non fini, un cadre qui ne cerclait pas le tableau dans son intégralité, dans l'esprit des échantillons qu'on place dans un angle de la toile pour se faire une idée du résultat final, au point qu'on ne pouvait peut-être pas même parler au sens propre de cadre, un cadre moins fait pour borner que pour suggérer. Restait à trouver le style, l'épaisseur et les bonnes longueurs pour chaque côté. Paradoxalement, lui qui avait l'habitude de dire qu'un bon cadre était un cadre qui se faisait oublier, voilà qu'il envisageait pour cette toile un cadre qui se distinguait par sa singularité, sur lequel l'œil buterait inévitablement. L'idée éclose, il se proposa de la mettre à exécution. Il s'appliqua aux premiers essais. Cadre blanc ou coquelicot en rappel des principales couleurs de la toile. Il tenta d'associer les deux. Il s'essayait à l'occasion en toute modestie à quelques essais de peinture, ce qui constituait un expédient commode et à peu de frais quand il souhaitait se rapprocher de la teinte désirée. Il réussit à composer un rouge poudré qu'il dégrada suivant les motifs mêmes de la toile, avant de revenir à un blanc cassé, un peu grisé, qui rappelait plutôt les personnages. Après maints essais, il retint 2 angles sur les 4. Le premier en bas à gauche, le second en haut à droite. Ce qui donnait l'impression d'une ligne de fuite partant dans la direction opposée. Il faisait ainsi œuvre, toute proportion gardée, d'artiste autant que d'encadreur. Dans son esprit, la frontière entre les deux était poreuse. Une toile, certes, peut se dispenser de cadre. Le contraire n'est pas vrai. Un cadre n'assume pas sa fonction, ne prend sens que quand il se greffe sur un contenu. À défaut, il serait comme une margelle ouvrant sur un puits sans fond. Il ne serait pas plus qu'une anse sans panier, une étreinte embrassant du vide, une porte donnant sur le néant. De la même manière, en poussant toujours plus loin son raisonnement, il apparut à M. Follet qu'un monde sans Dieu est acceptable, tandis qu'un Dieu sans monde ne le serait pas. M. Follet mit 1 mois pour réaliser le cadre qu'il avait conçu en pensée. Il n'avait pas pris la peine de faire valider préalablement son projet par les grognards, pas plus celui-ci que le cadre en plexiglas, car il n'y avait pas de milieu. Le cadre était en soi trop inédit, trop bancal pour qu'une simple suggestion permît d'entrevoir le résultat final. D'une certaine manière, il était déjà par lui-même une suggestion. Le résultat se confondait avec le projet.
L'artisan prenait le risque d'un refus, et alors? Cela lui était égal désormais. Sa pension d'invalidité lui tenait lieu de revenu garanti, il n'était plus soumis à l'angoisse du lendemain. Vint le jour de la présentation du cadre au grognard. Ceux-ci étaient prévenus que M. Follet avait choisi pour eux, sans les consulter, et qu'ils n'auraient d'autre choix que d'accepter ou de refuser la commande. Afin d'éviter toute gêne, ils repartiraient sans payer. Ils enverraient leur chèque plus tard, une fois leur avis forgé, si, et seulement si, ils validaient le projet final. C'est à ces conditions que ce marché devenait acceptable des deux côtés. Les grognards avaient une confiance quasi aveugle en M. Follet. Ils ne pouvaient cependant s'exonérer totalement de la crainte que l'artisan se soit fourvoyé. Qui sait si la contrainte permanente d'une station assise n'avait pas altéré son jugement et ses capacités? Ils mesuraient déjà, pour eux, grands amateurs de peinture, les conséquences d'une telle perte, en frémissaient, craignant de devoir prendre à leur compte l'expression qu'ils avaient entendue dans la boutique « Feu, monsieur Follet ». Quand ils eurent le droit d'ouvrir les yeux, ils les ouvrirent plus grands qu'il n'était nécessaire. Ils étudièrent cet essai de cadre avec attention, sans émettre aucun commentaire, et ce, d'autant mieux qu'il restait sans voix. Il n'avait pas d'avis. D'ailleurs, il fallait le voir en situation sur leur mur. Leur œuvre encadrée fut replacée dans son étui. Les grognards repartirent après quelques formules de politesse qui ne défloraient pas leurs premières impressions. Un mois s'écoula. Monsieur Follet avait presque oublié son cadre. Quand il y songeait, tantôt il pensait que le cadre ferait son effet, tantôt il se persuadait que son travail était trop innovant pour recevoir l'approbation du public. Un matin, Madame Follet entra dans son atelier, brandissant un coupon dans la main, l'air victorieux. « Le chèque des grognards !» M. Follet n'en tira aucune gloire. « Ont-ils joint un commentaire ? S'en quitte-t-il ? » Madame Follet fut interloquée. En effet, ce n'était pas leur genre. Elle retourna en boutique vérifier l'enveloppe. Elle en retira, glissait tout au fond une petite carte aux dimensions du simple mot qui était griffonné en grosses lettres capitales. « Bravo !» François Follet triomphait. Non, il n'était pas fini. 6. Hippologue. De son côté, Philippe préparait la saison des concours hippiques. Il avait intégré l'équipe nationale des cavaliers de saut d'obstacles. Il s'entraînait avec les chevaux de compétition et montait plus rarement champion du marais, ce qui, au demeurant, faisait l'affaire de Biftec. Le jeune cavalier n'était plus disponible les week-ends. Il proposa à ses parents pour une fois, la deuxième, de venir lui rendre visite. Madame Follet avait conservé un mauvais souvenir de sa précédente expérience, autant du fait de Gigi que de celui des équipés sauvages de son mari. Elle décida de prendre sur elle pour faire plaisir à son fils. Du moins, elle était bien sûre que son mari ne galoperait plus à tort et à travers. Madeleine, François et son fauteuil prirent tous trois le chemin du cadre noir le dimanche suivant. Plusieurs, qui avaient assisté de loin à ses progrès de cavalier, le reconnaissaient comme le père de Philippe et vinrent saluer avec affection et pudeur celui qui avait des allures de miraculé. Elle pensait « Mon mari est handicapé. C'est à moi que devraient être décernés les hommages. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre debout aux côtés d'un fauteuil. » Un vieil écuyer s'était souvenu d'un sulky qu'un ancien compagnon d'armes, aussi malchanceux que le sieur Follet, et disparu depuis, avait adapté à son propre handicap. L'engin était resté longtemps oublié dans un hangar. Il ressemblait à une chaise roulante dotée d'une assise dorsale fixée au siège, capable de soutenir son hôte durant la course. Philippe, aidé de Gigi, avait travaillé à perfectionner le système en croisant les sangles. Ils firent la surprise à Monsieur Follet. Quand ils le conduisirent dans le bâtiment et qu'ils ôtèrent la housse qui recouvrait le sulky, François Follet sentit de nouveau le vent de la liberté souffler sur sa nuque. Il eut un regard de gratitude en direction de son fils. Madame Follet dissimulait mal, quant à elle, sa contrariété, sans qu'on pût démêler l'origine de sa réaction, de la présence de Gigi, ou de ce qu'elle voyait son fils s'associer à son père dans une voie qu'elle croyait définitivement condamnée à un homme en fauteuil. Peut-être parce qu'il était temps de réconcilier le cheval et son maître, Gigi était allé chercher champion du marais dans son champ, aux grandes dames de Biftec, qu'on entendait hennir de loin. François Follet savait ne pas devoir tenir rigueur à l'animal de l'accident. Il s'accusait seul de ce qui était arrivé. L'étalon fut installé entre les deux bras du sulky. Il semblait bien réagir. On lui passa les rênes. Philippe avait préparé l'animal à cet exercice depuis plusieurs jours. Philippe et Gigi s'approchèrent de M. Follet et d'un mouvement coordonné, ils le soulevèrent d'un bloc. C'en fut trop pour Madame Follet qui tourna les talons. Les deux hommes calèrent M. Follet au fond du siège, attachèrent les sangles sur son torse. Ils conduisirent ce convoi jusqu'à la piste. Quand il fit claquer les rênes sur la croupe du cheval et que Champion du Marais partit comme la foudre, François Follet éprouva un sentiment de légèreté inouïe qui l'affranchissait des pesanteurs de son corps. Il lui semblait flotter dans le sillage du cheval, emporté comme un fétu de paille soufflé par une tempête. Il fut soudain en proie, moitié ironie, moitié jubilation, à une envie de rire irrépressible qui secouait ses épaules. Ceux qui laissaient derrière lui, qui le voyaient de dos, crurent que c'étaient les imperfections de la piste, invisibles à l'œil, qui imprimaient ses soubresauts à toute sa personne. Fin de la nouvelle.